Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, on va faire un one-shot extraordinaire sur un jeu qui s'appelle Plague.
Plagues.
Je sais bien. Avec Fabien Invine. Fabien, ça va la pêche?
Tout ça parce que t'aimes faire des bonnes plagues.
J'adore.
Alors allez-y, enchaînez.
C'est génial.
C'est génial, j'adore. Donc... vous aviez pas d'autres noms complètement à côté de la plague, Jérôme, non? Non, non,
pas du tout. C'est bon, on l'a déjà fait.
D'accord. En dehors des micros. Donc nous sommes également avec Jérôme S de Poitiers.
Salut.
Ça va, Jérôme, la pêche. Nous sommes avec Natacha.
Salut.
Nous sommes avec Maxime. Nous sommes avec Emmanuel.
Hello.
Et donc, c'est toi, mon cher Fabien, qui va nous présenter ce jeu, un jeu signé John Doe.
Alors, oui, c'est un jeu de Benoît Atinos. Commençons toujours par préciser l'auteur. C'est une coproduction avec John Doe, effectivement. Souvent, dans les podcasts de La Cellule, on dit que... Enfin, j'aime bien dire que, ben voilà, John Doe, ça m'a beaucoup aidé. J'ai raconté dans le podcast sur Monostatos comment le DK carré m'avait beaucoup inspiré pour Monostatos. Et Plagues, ça fait partie vraiment des jeux que j'aime beaucoup chez John Doe. Il y avait ça et il y avait Mantel d'acier. Mantel d'acier aussi, qui a un propos politique incroyable. Et en fait, assez récemment, il y a eu des rumeurs comme quoi Plagues sera prochainement réédité.
D'accord.
Et je me disais que ce serait cool de faire un podcast pour en parler, parce que c'est vraiment un univers que je trouve intéressant.
Donc là, on n'a pas eu en avant-première la réédition, on est vraiment en train
de
tester le vieux
Plague.
Non,
on joue avec le vieux...
C'est un jeu qui est sorti quand, ça?
J'étais en train de chercher ça, justement.
Mais c'est du 2004, 2005, 2006.
Non, c'est 2007, 2008, à un cheval près, parce que je me souviens avoir acheté le mien en 2009.
Oui, tout à fait, je dis n'importe quoi.
Donc ça doit être dans ces eaux-là. Je l'avais acheté en même temps que mon exemplaire du DK carré, et celui-ci je l'avais acheté en 2009, ça je m'en souviens bien.
D'accord. Tu vas nous expliquer un peu de quoi qu'il s'agit, parce que moi, Plague,
alors,
je ne
connais
pas.
C'est un univers de medieval fantasy qui s'appelle Ordan, qui jusque-là était un univers de medfan gentil, qui ne demandait rien à personne.
Avec des elfes et tout ça?
Avec des elfes.
Comme
avec
dans Fatal.
Nains.
Des nains, des orques. Des...
Avec des nains, des orques, tout à fait.
Comme dans Fatal.
Avec des gnomes. Et.
Shadow dit hors des micros, personne ne répondra à la blague.
On a immunité au troll plus 5. Troll d'ailleurs dans ce univers?
Possiblement. C'est un peu comme Facebook, du coup. C'est pas interdit. Et. Alors pour vous présenter rapidement et du point de vue de vos personnages l'univers, il y a eu ce qu'on a appelé une série de pandémies qui ont été des
jeux de plateau.
Donc voilà, dans lesquels qui sont en fait des invasions de morts-vivants qui se sont faites et qui progressivement ont détruit les différents empires, royaumes, tout ce que vous pouvez imaginer qu'il y avait à l'époque.
Non, c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser au Trône de Fer avant l'heure en fait.
Alors c'est on pourrait comparer les inspirations voulues ou non voulues à d'autres univers, sachant que Trône de Fer nécessairement c'est...
Enfin, les Trônes de Fer, c'est un peu plus âgé aussi, ça date de quand, Trônes de Fer?
Moi, je crois que le début date de 91,
Je
crois que c'est assez vieux. Hein.
Je crois que
c'est pas cité parmi les...
Les inspirations.
Il n'y a pas d'invasion régulière de zombies dans le Trône de Fer.
Non, mais tu penses Medfan, zombie, aujourd'hui,
c'est pas si zombie que ça. Mais bref, laissez-moi continuer à décrire Plagues. Il y a plusieurs choses quand même qui rendent... En fait, ce que j'aime beaucoup dans cet univers, c'est que c'est un univers que je trouve... à la fois très beau et très désespéré, et d'une certaine manière beau dans son désespoir. Puisque ces invasions de morts-vivants, progressivement, sont devenues de plus en plus complexes. Une des avancées, ça a été qu'on s'est rendu compte peu à peu que les morts-vivants étaient organisés. C'est-à-dire que tout en bas, il y a les infectieux, qui sont... une espèce de zombie à la Romero façon 28 jours plus tard. Et puis au-delà de ça, il y a les créatures que vous connaissez d'habitude, hein, des vampires, des liches, des choses comme ça. Et des choses de plus en plus compliquées au-delà de ça. Mais qui tiennent plus des légendes et des mythes.
Un vampire, liche, samouraï, chaperon rouge, poney...
Non, c'est pas un vampire issu de la boîte à JDR. Non, non.
Des princes démons, genre les
Par exemple, alors je vais donner un exemple un peu plus tard, mais une des autres particularités de ces pandémies, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir de la cendre. Et que les paysages sont recouverts de cendre, qui est une matière qui déjà est extrêmement traître. C'est-à-dire qu'elle peut tout à fait faire un pont par-dessus une crevasse et s'écrouler quand tu marches dessus, faire des avalanches, tu peux avoir des recouvrements de... Tu peux avoir une rivière qui est cachée sous de la cendre, par exemple, qui est une matière qui est empoisonnée aussi. Quand elle tombe dans l'eau, ça devient assez compliqué de rendre l'eau à nouveau potable, qui peut se stratifier. Enfin, c'est une vraie saloperie. Ça rentre partout, ça rend la respiration difficile, ça donne une très mauvaise vue très loin, ça peut cacher des infectieux ou des squelettes qui attendent gentiment sous la cendre que vous passiez par-dessus.
Ça peut brûler peut-être aussi, je sais pas.
Non, ça éteint, ça aurait plutôt même tendance à éteindre les feux.
D'accord.
Donc effectivement, ça rend la vie très difficile. La cendre, c'est l'élément esthétique le plus génial. C'est une très très bonne trouvaille.
Emmanuel.
Du coup, ça donne quelque chose d'un peu feutré, façon la route.
C'est ça.
J'étais exactement en train de penser à cette référence.
T'as tout le temps t'as souvent des nuages, des nuages. Si tu veux, t'as une ambiance assez sourde. Une autre particularité, c'est que ce qu'on appelle les races magiques. Sont victimes de malédictions qui sont différentes pour chaque race. Les elfes finissent par être rongés par des cancers. Ils ont tout un tas de taches noires qui leur apparaissent sur la peau et ils finissent par mourir comme ça. Les nains, en vieillissant, leur corps devient de plus en plus rigide. Ils se transforment en pierre petit à petit. Les gnomes, les halflings, semi-hommes, les lutins, tout machin comme ça, deviennent très rapidement déprimés et suicidaires. Et enfin, ouais, voilà, plus de volonté de vivre. Et enfin, les orques et de manière générale, ce qu'on appelle les races goblinoïdes, deviennent ont des accès de rage dans lequel ils s'attaquent à tout ce qui les entoure.
C'est des orques façon Warcraft ou...
Pour moi, c'est plus des orques façon Tolkien.
D'accord, donc ils sont quand même... ça peut être aussi des antagonistes, du coup.
Non, alors rarement. En fait, l'antagonisme, il est plus entre race magique et humain. Merci pour la transition. Parce qu'une dernière chose qui s'est produite, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les sages, qui sont des prêtres d'une religion... indéterminés, qui sont capables de faire des miracles et qui apportent une réponse.
C'est des bugs, non ?
Stop ! Sont capables de faire des miracles et apportent une explication en fait aux pandémies, en expliquant que c'est à cause des péchés des races magiques que sont venues les pandémies. Donc évidemment, il y a des choses comme ça qui...
fanatisme religieux, extinction...
C'est drôle parce qu'en faisant un peu de méta, on a l'impression que c'est tout un univers cliché qui se désagrège, en fait. Et puis qui se désagrège chacun à sa manière. Donc c'est-à-dire que les elfes avec leur belle complexion blanche... voilà,
c'est ça.
C'est la transition entre l'enfant qui rêve de Medfan... et celui qui fait de la politique aujourd'hui, tu sais, et qui essaye de politiser son Medfan et au fur et à mesure progressivement passe d'un monde Medfan à un monde...
Il y a une forme de déconstruction de l'univers Medfan classique qui est effectivement est très intéressante dans Plagues.
On en reparlera peut-être après.
On en reparlera peut-être après. Quelques précisions. Alors oui, il y a des trucs classiques du genre, si vous êtes mordu par un infectieux, vous vous transformez en infectieux.
D'accord, donc c'est vraiment des infectieux, c'est des zombies.
Oui, oui.
Contaminer le péché par la bouche. Alors,
c'est ça. Donc, tu peux voir. Avoir des infectieux nains, elfes.
Voilà ce que j'allais dire.
Orques, humains.
D'accord. Un nain mordu peut devenir un infectieux. Il n'est pas obligé de se transformer en statue.
C'est la Non. La malédiction, elle est que tu sois mordu ou pas. Quand t'es nain, si tu vis suffisamment longtemps, tu vas finir par te transformer en pierre. Ouais. Ce qui est. Et d'ailleurs, par exemple, une autre belle trouvaille esthétique de Plagues, c'est que, je ne sais plus si c'est dans le bouquin ou si je l'avais lu, mais il me semble que les nains ont des nécropoles dans lesquelles ils gardent leurs morts. Et en fait, maintenant, pourquoi ils mettent des dalles de pierre au-dessus des tombes de leurs morts pour les empêcher de sortir ? Et donc, les nécropoles sont remplies de hurlements des morts qui grattent contre les dalles de...
Génial.
Waouh,
c'est assez flippant.
Donc il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trouvailles très très belles comme ça dans Plagues.
Oui. Ces zombies-là, ce sont des zombies qui courent ou qui...
Alors non, les infectieux.
Non mais voilà.
Les infectieux, c'est comme un être humain normal mais très agressif.
D'accord.
Ils sont très cons. Par exemple, ils savent pas
savourer les portes.
Voilà. Alors justement, voilà, ouais, c'est marrant que tu dises parce qu'ils précisent qu'ils sont incapables d'ouvrir des portes. Tout à fait.
Natacha est déjà en train de chercher des stratégies de survie.
Ils sont aussi incapables de traverser l'eau. C'est-à-dire que si leurs pieds ne touchent plus la terre, s'ils sont portés par l'eau, ils deviennent complètement amorphes. Ils se laissent porter par le courant et ils peuvent être facilement butés.
D'accord. Donc ouais, c'est quand même c'est marrant.
Si leurs pieds ne touchent plus la terre, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent pas courir donc?
Si, mais enfin bon, ça, oui, il faut plus qu'il touche la terre.
Ça peut être intéressant, tu vois.
J'ai pas vraiment l'impression. Alors, je vous dis ça. J'ai relu rapidement le bouquin et les règles récemment, mais je m'y étais intéressé surtout en 2010. Donc là, je reprends les choses un peu rapidement.
Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une dimension un peu poétique dans tout ça.
C'est possible. Alors, il y a encore quelques trucs. Donc, quand tu meurs, tu te transformes à peu près automatiquement en infectieux, sauf si t'as été décapité. Les sages suggèrent de brûler les donc ça peut donner lieu à des beaux bûchers.
Ah, c'est pour ça qu'il y a de la cendre peut-être.
Où tu brûles les infectieux, mais tu brûles les cadavres, tu brûles les gens qui ont été mordus aussi. Donc il y a ce qu'on appelle des havres, qui sont en fait les derniers endroits où les êtres humains survivent. Qui sont des villages dans lesquels on se débrouille en cultivant des champignons, en faisant des petites cultures devant chez soi, toujours en essayant de chasser la cendre qui tombe, parce que si la cendre tombe sur des... Ou si des animaux bouffent de la cendre, ils vont être empoisonnés, donc c'est pas cool. Et, oui.
Finis ce que tu avais à dire, Jérôme, déjà. Non.
Et de façon générale, chaque havre vit de façon assez enfermée sur lui-même, avec des règles assez strictes. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire entrer n'importe qui. Tu dois être une quarantaine pour pouvoir passer dedans. Les marchands, c'est quelque chose qui fait relativement peur. Notamment parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle des collaborateurs, qui sont en fait des humains qui passent des pactes avec les morts-vivants.
Collabo !
Et qui cherchent à entrer dans les havres et puis à détruire le havre, par exemple en versant de la cendre.
C'est un cauchemar.
Chez John Doe, ils sont pas des amusants. Hein.
En versant de la cendre dans les réserves de bouffe ou dans la réserve d'eau. Si tu verses du sang ou de la salive d'infectieux dans la réserve d'eau, ben, je te laisse deviner ce que ça donne dans le
havre. Non, il y a combien de havres? 2, 3?
Non, il y en a quelques-uns un peu partout. Pour vos personnages, il y en a 2. Enfin, je vous raconterai ça un peu plus en détail.
Et justement, tu parles de nos personnages. Je voulais demander, alors là, tu nous as décrit l'univers. Et que joue-t-on, nous?
Alors, on va jouer un scénario que j'avais écrit pour la Convention des alchimistes 2010, qui s'appelait, est-ce que je peux donner le titre sans spoiler le truc, Le Mal par le Mal.
Donc on ne précisera pas l'écriture.
Les personnages sont pré-tirés. Enfin,
j'ai pas osé faire de remarque.
Qu'est-ce qu'il y a?
Le Mal par le Mal.
On ne précisera pas l'écriture.
Ah oui.
Le Mal par le Mal.
Donc il y a une série de personnages qui sont pré-créés. Donc je précise, la Convention des alchimistes, c'est une convention à Strasbourg à laquelle j'ai participé quelques fois. Et voilà, vous vivez dans un havre. Alors plus précisément, il y avait 2 havres. À l'origine, un havre qui s'appelait le havre des Hauts Rocs, qui est à proximité d'une falaise. Et il y a quelques.
Enfin, A-U-R-O-C-H ou
H-A-U-T. H-A-U-T. Voilà. S.
D'où la falaise.
Roc.
Ouais. Je me suis douté, mais je préférais demander.
Et. Alors, effectivement, il y a beaucoup de havres qui sont construits sur une île, parce que comme les. Rarement en haute mer, parce qu'en haute mer, t'as.
Et du coup, il y a le port du Havre.
Okay.
Voilà. Et donc il y a des sages qui ont débarqué dans le havre des Hauts Rocs et qui ont fait une purge en fait, qui ont chassé toutes les races magiques de cet endroit-là, qui sont allés se réfugier à un autre havre à proximité qui s'appelle le havre de l'arbre fin, où vivent vos personnages à l'heure actuelle. Voilà.
Tu sais que
bah, genre c'est un arbre qui protège.
Parlant du
de la
port
cendre,
du Havre.
Alors non, c'est un havre construit à proximité d'une forêt.
Alors, j'aurais trouvé ça trop beau.
Maxime, là, parce que t'as fait ta blague sur le port du Havre là, tu sais qu'à un moment donné au Havre il y avait 4 magasins de jeux de rôle. C'était en 2005 je crois, 2004. Non 2007. Non,
le Havre, de l'arbre
au
Havre.
Dans cette petite, enfin c'est quand même pas une très grande ville tu vois le Havre. Il y avait 4 magasins de jeux de rôle pour la ville. Il y a énormément de rôlistes au Havre. Il y a pas mal d'assauts de jeux de rôle au Havre et tout ça. Donc on les salue. Voilà.
Ça nous donne l'occasion. Quand tu vois la gueule du porc, effectivement.
C'est fou.
J'ai envie de t'enfermer dedans.
Et sinon, pour terminer, on respecte la région entre eux.
J'aimerais bien que tu
nous
parles
les systèmes de règles. Ça va être assez traditionnel. C'est le système des cacarés qui était une boîte à outils aussi publiée par John Doe avec un système de crasse. Donc c'est le système des vins, mais avec plein de petites améliorations cool, notamment les systèmes de crasse, c'est-à-dire que tu as une réserve de dés au milieu de la table et tu peux l'utiliser pour améliorer tes dés.
Quand tu dis un système des vins, c'est vraiment le système des vins avec des niveaux et tout ?
Non, c'est encore un autre. Mais tu utilises un des vins, par exemple, tu as des caractères spécifiques pour les attaques, tu as une série de compétences qui sont modifiées, enfin dont la valeur est déterminée par tes caractéristiques, tu as une réserve de points de vie, tu as une réserve de points de magie, voilà. Et en dehors de ça, si tu veux, si on parle vraiment de la répartition de la parole, attendez-vous à un jeu de rôle traditionnel.
Alors, mais les dés au milieu de la table, il n'y a pas une histoire quand tu prends un dé.
Alors, quand tu prends tu as une réserve.
Tu prends un dé, ça te donne un dé de plus à lancer et tu vas le donner au MJ qui pourra, avec ce dé, te refaire des crasses derrière.
Non, c'est le contraire. Le MJ peut rajouter des crasses, mais il rajoute à ce moment-là il en rajoute à ce moment-là dans la réserve commune.
Le MJ fait des crasses qui donnent des dés aux joueurs.
Les joueurs peuvent générer leur propre dé de crasse au départ. Et le dé de crasse, en fait, tu lances un dé. Si ça fait 6, t'as un bonus de plus 6. Si ça fait 3, t'as un bonus de plus 3.
D'accord.
Sinon, ça fait un bonus de plus 0. Il y en a qui disent que c'est assez accessoire parce que c'est difficile d'arriver à prévoir. Bon.
Je suis désolée, j'ai décroché 5 secondes. C'est un jeu à secret ou tu l'as précisé ou pas ?
Pas vraiment, c'est plus un jeu. Moi, je le vois plutôt comme un jeu de survie et d'aventure. D'aventure-survie. Il y a effectivement des secrets dans le monde.
Spécialisé dans le jeu d'aventure. Vraiment, c'est...
Il y a effectivement des secrets dans le monde. Je trouve pas les secrets très intéressants.
On pourra peut-être
en refaire. Je trouve qu'il est simplement beau en lui-même, si tu veux. Alors, on pourrait discuter de ce qu'on pourrait proposer ou suggérer, en tout cas de notre point de vue sur la réédition. Peut-être que creuser un peu ses secrets, ça pourrait être intéressant. Voilà.
Merci Fabien pour cette présentation. Puis c'est parti, vous allez jouer. À bientôt pour le jeu.
Si on avait des questions, c'est foutu, c'est ça.
Ah, vous aviez des questions ?
Non, c'était juste pour t'embêter.
Non, mais à la semaine prochaine.
Non, à bientôt pour... Bien, fin de la partie de Plagues. Elle a duré un certain temps. Vous avez joué combien de temps là ? Facilement.
Même un temps certain.
4 heures ? 4 heures, 5 heures peut-être ?
Je ne sais plus, on a joué 4 heures, quelque chose comme ça ?
Ouais, on a commencé à 13h30 et il est 18h.
Ah bah voilà, ouais. Donc 4h30.
Avec pauses diverses et variées, donc on peut dire 4h. Voilà.
Alors, de quoi qu'il s'agit ? Le mal par le mal.
Je vais laisser les joueurs présenter leurs personnages.
Ça vous a plu ? C'était bien ? Bon, j'ai pas l'impression que ça... Tout le monde ne se jette pas sur les micros, voyons. Attends, je ne t'entends pas, Natacha, il faudrait que tu allumes ton micro. Ouais.
Regarde.
Je pense qu'il est éteint. C'est...
Ça y est, il
voilà,
est
c'est
allumé.
Bon, il est allumé. Tu es sur rampe de lancement, nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu disais ?
Je sais plus.
Ah, je dis.
Non, on sortait de partie, on sort de partie, donc on est un peu tout.
Voilà,
ça retombe quoi. Ouais.
Oui, alors c'était cool, hein. La fiction créée, enfin le contenu fictionnel, Maleb, tout ce
non,
que
tu veux.
Non, la fiction,
si tu veux.
La fiction créée, c'est sympatoche. Moi, j'ai plutôt bien aimé, mais. C'est comme beaucoup de jeux à tendance tradie, moi de nos jours, ça me retourne pas les tripes comme beaucoup d'autres jeux peuvent le faire. Mais c'est reste un bon moment.
Avant d'aller directement à ça, est-ce qu'on pourrait pas parler déjà de la fiction
Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on va présenter les persos rapido.
On parle de la fiction, c'est voilà. Parti.
Les personnages.
Alors.
Je veux bien commencer si vous voulez, parce que j'ai un peu le perso.
Vas-y.
J'ai le perso un peu
outsider.
C'est une pêche que vous avez. C'est pas qu'on manque d'enthousiasme, mais c'est qu'on manque d'énergie. Mais c'est pas la même
D'accord,
chose.
D'accord, ok.
Oui, voilà.
Maxime.
Les gens sont habitués hein, quand on sort de partie. Enfin bon, bref.
Tout à fait.
Donc moi j'avais l'outsider de l'équipe, celui qui est pas, qui connaît pas les autres, parce que comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les non-humains sont parqués ensemble et les humains par contre c'est un peu les méchants. Disons qu'ils sont, ils ont, c'est les purgeurs. Et moi je joue un humain, je joue un prêtre humain, donc qui croit
du salut,
un prêtre du salut,
salut.
Et salut. Qui, ah non, et là j'ai tué Grit sous les yeux, donc non c'est pas moi, moi je suis là. Et clairement il y a marqué je suis jeune et fervent. C'est-à-dire que je suis un jeune prêtre, j'ai bien conscience qu'en effet, bon, des fois on a abusé un peu, j'avoue, mais bon, quand même, dans le fond, on a raison, quoi. mais je suis dans la merde parce qu'en fait, au roc, notre havre qu'on a piqué il y a 50 ans aux non-humains, enfin, duquel on a purgé les non-humains à coups de lance-flammes et autres, de ce que vous voulez, miracles et autres. Maintenant, c'est la merde parce qu'on est attaqué par une putain de horde de morts-vivants. Et du coup, bah là, j'avoue qu'on arrive un peu la queue entre les jambes à l'autre havre à 2 jours de marche, là où il y a des non-humains, pour leur demander leur aide. Et avec moi, j'ai le fils du chèvre, j'ai le fils et la fille du chef du havre, et j'ai des villageois avec moi. Donc, vous avez pas dit que c'était les fils et filles du chef
Tobias et Elena.
Je ne l'avais pas dit à mes confrères et mes consoeurs dans le doute. Et
Or, sa fille est morte, ça.
Oui.
Et tu lui as annoncé, il a dit vous avez bien fait.
Non, ça c'était le prêtre.
Ah non, c'était le prêtre. Ah oui, d'accord. Enfin, vous avez bien fait de la. Elle était infectée, on l'a décapitée pour le. Voilà.
Voilà. Et d'accord. En gros, moi mes capacités.
Tu l'as décapitée.
Natacha.
J'ai un personnage basé vraiment sur la foi et le bagou. J'ai du bluff, des capacités de concentration, de diplomatie, de psychologie. J'ai aussi de la fouille et de la perception, allez savoir pourquoi. Mais clairement, je suis un perso mental qui est là pour. Dont les capacités, c'est de comprendre les gens, convaincre les gens et surtout faire des miracles. Et ça, c'était les trucs les plus importants. C'est-à-dire que mon personnage est clairement un prêtre qui fait de la magie, quoi. Et sa magie, c'est pas de la merde. Elle est plutôt facile à lancer.
Ah ouais.
Clairement, je veux dire, en termes de statistiques, moi, tous mes sorts, c'était difficulté 15, sachant que j'ai de base plus 11. Donc, c'était du 4 plus sur un des 20. Donc, ouais. Grosse proba de réussir à chaque fois. Et ça me coûtait un des 6 points d'énergie, sachant que j'en ai 25. Donc, si j'ai pas de bol, je peux en lancer que 5 avant d'être dans la merde. Sauf que j'ai été un chanceux incroyable, j'ai dû lancer une douzaine de sorts.
Donc, vous avez beaucoup de bol dans toute la partie.
Donc, en moyenne, j'ai dû faire 2 ou 3. Chaque pouvoir a dû me coûter 2 ou 3 points d'énergie. Donc j'ai...
C'est marrant ça, les dépenses de points aléatoires pour la magie.
Mon perso a fait.
C'est original ça.
Moi je trouve qu'il a fait le café, quoi, globalement. Tout ce que j'ai voulu faire d'important a été réussi, quoi.
Les sorts dans le DK2, on dépense 3 niveaux d'énergie, 1d6, 2d6 ou 3d6.
C'est génial ça.
Les armes font 1d6 plus un bonus, ou 2d6 plus un bonus, ou 3d6 plus un bonus, suivant. Est-ce que c'est une arme lambda, de professionnel ou de brutas?
C'est vraiment bien ça comme système.
Donc voilà, j'ai pas non plus un fanatique, j'ai pas une brutale. Ouais, bah moi je reste sur la fiction, hein, parce qu'en fait le problème c'est qu'on dérive trop après.
Non mais t'es en train de manger là, Maxime, on fait un podcast là, et on entend les mastications de Maxime, merci. Les éditeurs t'ont...
Non mais...
Il est en train de bouffer. Oui, mais moi je reste sur la fiction, c'est-à-dire que...
Plus les petits lus que le salut.
Ouais, hein. On n'est pas payé pour les podcasts, hein. on fait ce qu'on peut.
Ouais, voilà, déjà on t'en fait 4 par jour, alors t'es gentil.
Et donc, podcast sponsorisé par Lune, n'est-ce pas? Merci Jérôme d'avoir cité la marque.
Non, non, les podcasts de la Cellule ne sont sponsorisés que par une seule chose.
Fisherman Friends.
Merci.
Depuis le début.
Et la school.
Effectivement. La school un peu.
School.
La scolastique, notamment.
Voilà, et au passage, son petit nom, parce que c'est Grégor Priest. Au cas où vous n'auriez pas compris. Clin d'œil.
Très bien.
Manu, voilà, est-ce que tu veux présenter ton perso?
Ouais, alors, moi, c'était donc une gnome, donc à tendance dépressive, même si, bon, faut en reparler. Mais... magicienne aussi. Alors, autant chez Maxime, ça le faisait le café, autant chez moi, c'était plutôt du jus de chaussette, ça n'a pas été facile et j'ai fini un petit peu épuisé c'était au niveau sorts, énergie.
C'était des sorts puissants, mais plus difficiles à lancer.
Ouais,
ça vous a quand même évité de subir une attaque, mine de rien.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je t'ai senti un peu déçu à ce moment-là.
Pas tellement, non.
Parce que bon, il y a quand même un sort qui permet de figer pour une scène entière 8 cibles d'un coup. C'est le genre de truc dans les jeux comme Agon que quand on est MJ, on supprime lui-même avec empressement pour pas que les joueurs puissent l'utiliser.
Non.
Ça casse un peu une scène.
Ça te bouffe plus de points d'énergie, c'est plus difficile à lancer.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Non, mais et t'avais trois chiens aussi.
J'avais trois chiens aussi. Et puis, donc, ouais, après, des compétences relativement, relativement basiques, pas forcément orientées à action. Donc, voilà, pour le perso.
Natacha ?
Donc, moi, j'avais Sive, fleur de crépuscule, donc éclaireuse elfe. Comme tous les elfes, très originalement, elle tire à l'arc. éclaireuse. Donc, moi aussi, j'ai eu ma scène où le MJ a fait « Merde, putain, pourquoi elle a réussi son jet ?» Donc, où on a évité l'avalanche de cendres. Voilà, donc éclaireuse, donc très un peu nerveuse, toujours aux aguets.
Malade aussi,
tout à fait. Et dont la famille a été décimée par les infectés, les infectieux.
Très bien. Jérôme.
Alors, moi, je jouais un nain qui, comme l'elfe de Natacha, qui était très original avec son arc. Moi, mon nain avait une hache. Donc, encore une fois,
on réinvente le médiéval fantastique.
Alors là,
je précise que tout ça, c'est mes créations. Hein. Ce n'est pas des créations du jeu. C'est moi qui ai.
Désolé, Fabien.
Non, mais c'est
Fabien, tu réinventes le médiéval fantastique. Il s'aimait pas entre eux, le nain et l'elfe.
Non,
celui qui a été détesté par tout le monde, c'était l'humain.
D'accord. Oui, il y avait un bon vieux consensus.
D'accord.
Alors bon, moi voilà.
Il y a eu une assez belle scène entre le nain et l'elfe en plus.
Ouais, où on a
partage de maladies.
C'est ça. Ah, t'es malade, moi aussi j'ai le cancer.
Spécifiquement, pour expliquer un peu le contexte, parce que sinon c'est bizarre, le nain avait besoin d'être soigné suite à un combat et il hésitait à montrer ses blessures parce qu'il voulait pas voir qu'il est en train de se transformer en marbre, comme tous les nains, en pierre.
D'accord. Ouais.
Et donc finalement, à un moment, il attire l'elfe à l'écart et il dit voilà, donc il lui montre ses blessures. L'elfe comprend pourquoi et il voulait se cacher, puis en échange l'elfe lui dit moi je suis en train de mourir de l'intérieur, quoi.
D'accord, ok.
Donc ouais, c'était plutôt cool. Et donc ouais, donc c'est un nain, ouais, qui est sur le déclin, qui est assez vieux, qui a vécu une vie de combat, qui est encore considéré comme plus ou moins le héros du Havre. Mais il est complètement sur le déclin et il essaye de le cacher en faisant le fanfaron, en prenant des risques inutiles, en...
Ah, c'est intéressant.
C'est le vieux c'est le vieux maître d'armes aussi. C'est lui qui a enseigné à tous les jeunes à se battre.
Oh, t'as dû être content.
Moi, je l'ai beaucoup aimé, celui-là.
Ouais, c'est celui qui veut mourir, en fait, mais dignement.
Un peu, ouais.
Une espèce de Finn on Finger, finalement.
Un peu, ouais.
Arrête de faire des références à ton jeu. Là, on fait la promo de Plagues, s'il te plaît.
Non, mais voilà. on est entre nous, on parle entre nous. Donc, alors, qu'est-ce que tout ça a donné? Donc, vous escortiez...
Donc, quelle est la situation initiale? C'est le personnage de Grégor Price, donc le personnage de Maxime, qui arrive avec quelques autres survivants, qui sont poursuivis par des infectieux. Il y a un premier combat, et ensuite on fait rentrer tout ce petit monde à l'intérieur. C'est durant ce combat, d'ailleurs, que le nain est blessé, comme je disais à l'instant.
Très bien. Donc ils sont mis en quarantaine avant d'entrer dans le second.
Alors, est-ce que tu peux nous en parler, Natacha, de ça?
Donc, autant le nain et la magicienne sont partis direct. Ouais, on va les aider. Et autant moi j'ai dit, mais attendez, les gars, ils sont poursuivis par des infectieux. On a 200 personnes, 200 personnes nous à l'intérieur que potentiellement fragiles. On va pas laisser entrer comme ça non plus. En plus, elle a précisé, je crois, dans le BG que, de toute façon, les voyageurs sont accueillis avec méfiance quand même.
En général, c'est pas
les marchands sont pas trop appréciés. Donc moi, j'étais partie sur ce point-là, quoi. On va pas les laisser rentrer comme ça. Donc je me suis d'abord mise à la porte pour les filtrer. J'ai fait rentrer celui qui était blessé, genre c'était une entorse, je crois, un truc comme ça, en premier. Après que j'avais vérifié qu'il n'était pas infecté, et j'ai dit aux gardes. Et puis après, au bout d'un moment, je me disais bon, quand même, les zombies, ça commence à m'énerver là, qu'ils s'approchent. en plus, j'avais deux amis en difficulté. Bon, j'ai dit aux gardes, finissez le travail proprement, quoi. Les laissez pas rentrer si vous avez un doute.
Je crois que d'ailleurs, moi, Maxime, j'ai tout de suite vu qu'on voulait pas nous laisser entrer parce que on sait pas tant que les autres ils reviennent pas. Donc tout de suite la magie, les pouvoirs de Jedi ouvre. Et fait pas chier, ouais, j'ai le pouvoir commandement.
Ce n'est pas ces blessures-là, ces morsures-là de zombies que vous recherchez.
Voilà, vous pouvez donner un ordre à une cible à au moins 20 mètres, à moins de 20 mètres auquel elle ne peut se soustraire. Donc j'imagine que j'ai pas jamais essayé sur un PJ, parce que ça me paraissait de base plutôt pensé pour les PNJ. Et Et du coup, voilà, direct, on ouvre pour faire chier au passage. C'est peut-être possible pour ça qu'il y en a qui ont réussi à se soustraire. Mais bon, voilà, on a fini par se débrouiller. Il y a eu de la magie déjà. Il y a déjà des fumbles. Avec ouais.
Donc ils sont rentrés sans être mis en quarantaine.
Enfin, si, ils ont sans être mis en quarantaine et les gardes ont pas fait à fond leur boulot.
Mmh. D'accord. Ouais, on le
verra. Faites confiance au MJ, quoi.
Donc ensuite, ça a commencé direct avec le nain qui charge et qui se prend des dégâts monstrueux. C'est-à-dire qu'on a eu peur que dès le début, dès le premier jet de dés, au bout de 30 secondes, Jérôme y crève, mais... quoi.
Ah, j'ai pris combien de. Un truc genre. 18 points de dégâts en deux coups sur 3 que je devais prendre dans le tour alors que j'en avais que 17.
D'accord.
Et mais après, oui, on s'est rendu compte qu'il y avait des réductions de dégâts par rapport à mon armure.
Oui, en fait, bon, ça on pourra en reparler, mais. Alors, c'est vrai que j'aurais pu relire un peu plus le DK carré. Mais en même temps, ça m'a fait un peu toujours le même effet que quand j'ai des JDR tradis dans les pattes. C'est-à-dire que si je suis le système, ça me demande beaucoup d'efforts, souvent pour des résultats pas très satisfaisants. Et donc, on est tout le temps obligé de bricoler, de trichouiller, d'inventer des règles, et puis en espérant que ça tienne à peu près le long de la partie. Bon.
Non, mais c'était marrant, le truc vraiment au bout de même pas deux minutes de jeu. Où, tu vas mourir.
Et à cause de mauvais jet de dés, objectivement, ou vous avez senti que le système, là, il y avait un petit problème?
Pas tellement, en fait. Je suis assez étonné par la violence du nombre de points de... En fait, je me souvenais pas... Enfin, bon, c'est peut-être aussi moi qui me souvenais pas, hein, mais un infectieux, donc le zombie, entre guillemets, de base, parce que c'est pas tout à fait un zombie, te fait facilement 2d6 plus 6 dégâts, quand même.
Ah ouais, alors que des gens normaux, regarder... c'est pas, mais c'est les dégâts les plus élevés qu'ils peuvent faire, quoi.
Mais je crois bien que c'était ça dès le départ. Et il y a pas mal de règles, en fait, effectivement, que j'aurais dû revoir, mais c'est toujours un peu le même souci, quoi. C'est-à-dire que bon, tu passes beaucoup de temps à comprendre le système, et puis ensuite le système n'est pas aussi efficace. Je propose de revenir un peu plus tard là-dessus.
Mais c'est vrai que tous les moments où on perd des points de vie ou des points d'énergie, bah, c'est un peu qui tout double, quoi. Quand on lance plusieurs dés, soit on fait une suite de 1 comme fait Maxime, soit effectivement ça peut monter très très vite. Donc il peut peut-être aussi, ça fait partie des problèmes que j'ai peur de voir apparaître, avoir un déséquilibre entre certains joueurs qui vont se faire sabrer en une demi-heure de jeu et puis d'autres qui vont avoir un peu plus de bol et qui
à nouveau c'est persister. Peut-être moi qui ai mal compris les choses. 2d6 plus 1 l'infectieux
pour revenir à la fiction, du coup
Jérôme,
on se rend assez vite à une réunion avec l'ancienne du village.
C'est ça.
Et le personnage donc de Maxime qui nous expose le fait que leur ville, enfin leur havre, est donc soumis à un siège depuis un certain temps. Et donc, il nous demande notre aide.
Et le scénario décide que on vous envoie, vous, PJ, prêter main forte au Havre.
Là, on a eu une scène en aparté.
Voilà.
Maxime est sorti et on a appris qu'il y avait en fait des catacombes sous.
Maxime est sorti physiquement. Mmh.
Sous la ville qui est assiégée, catacombes qui sont remplies donc, où il y a une nécropole.
C'est ça.
Donc remplies de morts et donc potentiellement réveillables ou réveillées même.
Alors je précise pour ceux qui connaissent l'univers de Plagues que dans le scénario c'était une nécropole au sens habituel du terme, parce que dans Plagues, une nécropole c'est une cité de morts-vivants qui émerge de la cendre. Enfin, c'est un phénomène très particulier. Donc ça n'a rien à voir avec ce phénomène-là.
Là, c'est la nécropole en sens standard, si j'ose dire.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une tombe, enfin une série de très nombreuses tombes les unes à côté des autres.
Très bien.
Et on nous a donné une espèce de poudre de perlimpinpin à répandre selon un certain symbole là-bas, à l'entrée de la
nécropole.
Pour la sceller définitivement et empêcher donc les morts qui y sont de sortir ou en tout cas de rejoindre l'armée qui est à l'extérieur.
D'accord.
La poudre était inefficace. Oui. Elle n'avait aucune efficacité.
Ah donc quand je dis perlimpinpin en plus.
C'est la poudre de perlimpinpin.
D'accord, j'allais justement te demander pourquoi ils étaient sortis.
C'est une poudre de MJ qui te dit hey, regarde, il y a un enjeu là-bas, ce serait. Dit Manu.
Manu, il y a une info là. Une façon de lâcher l'info, je me fais. C'est
on pas partage
grave.
Les...
J'ai arraché le micro à Emmanuel.
On partage les micros, donc.
Tout va bien. Non, mais
le poudre aux yeux, donc.
Exactement, non, sur la porte.
Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose?
Je sais pas, ça vient. Ça... Non, je reviendrai dessus plus tard.
Très bien.
Ça, ils sont bien gardés de me le dire, ils m'ont juste dit. On y va, on vous envoie eux, on jauge la situation et on vous aide éventuellement à évacuer. En gros.
Pourquoi ils t'ont caché les choses là ? J'avoue qu'il y a un truc que je comprends pas.
Peut-être qu'ils avaient peur que je me dise, en fait, vous voulez juste vous protéger, bande de connards, quoi.
Et puis surtout, en fait, j'étais parti dans l'optique que je m'en foutais de sauver des êtres humains. Par contre, avec ça, on avait une excuse pour entrer dans la ville et aller sceller le.
Ouais, moi, je ne savais pas trop comment le personnage de Maxime allait réagir, donc prudence, il n'est pas forcément concerné.
Puis c'est un humain.
Et puis, alors moi, les humains, indifférence, quoi. Mais
un humain du culte. Moi, j'ai connu les génocides. Hein.
Moi, ma famille n'en a pas souffert, j'ai pas connu. Donc.
Le soir, Fabien. Même. Alors que le personnage de Maxime, donc le prêtre, est en train de roupiller,
méditer. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ?
Roupiller, enfin.
Bah là, direct, je me réveille avec parce qu'il y a des bruits à côté de moi et quelqu'un qui a des spasmes. Et évidemment, c'est la fille du chef du village. Donc tout de suite, j'essaie de la calmer, de lui mettre la main sur le front, essayer de voir ce qui lui arrive. Et je comprends très très vite ce qui se passe, quoi. Elle est en train de se transformer en infectieux. Et évidemment, ça réveille son frère. Qui panique, quoi. Je veux dire, il voit sa fille et là il est en pleine dissociation. Non, non, mais on peut la sauver, faut que personne s'en approche, je vais la soigner et compagnie.
Oh là là là. Donc là, tu vas lui trancher la tête, c'est ça ?
Bah là, non, moi déjà je suis un prêtre, j'ai aucune arme, je peux pas faire ça. Et moi j'essaye juste de lui faire entendre raison. Je veux juste le protéger lui parce que je veux pas qu'il aille lui faire des câlins à elle et qu'elle se retrouve à le mordre et compagnie.
Donc, heureusement, qui est-ce qui faisait la ronde ce soir-là dans le village ?
Le personnage de Natacha.
Je passais devant la porte juste à ce moment-là.
Ouais, donc l'heure de crépuscule arrive et à ce moment-là s'engage le moment où elle voit un infectieux, elle réfléchit pas une demi-seconde, elle l'attaque. Évidemment, lui qui est en plein, je veux sauver ma sœur, en plein déni, il commence à vouloir se battre. Moi, en tout cas, pareil, il me repousse. Hein. J'ai fait des tests de psychologie à ce moment-là. Fabien m'expliquait, il est en plein deuil, mais il l'acceptera pas vite. Là, tout de suite, tant que si vous êtes violent, ça va juste pas empirer les choses, quoi. Il faut manœuvrer avec. Moi, j'ai compris, ça veut dire manœuvre avec délicatesse, quoi.
Ouais, ouais.
J'étais prêt à faire des trucs, mais du coup, Natacha est intervenue, c'est pour le mieux. Parce qu'elle direct Zlak, elle attaque, petit échange de coups en gros.
Et tu décapites.
Et elle fait une réussite suffisante.
Et toi, t'ordonnes à.
Et à ce moment-là, j'utilise un pouvoir de commandement pour ordonner à Tobias de me regarder moi. Et qu'il regarde pas
ça. Que je décapite sa sœur, pas qu'il voit sa sœur se faire décapiter.
On y va sur la fiction, essayez d'aller.
Ouais, mais du coup, c'est parce que c'était une scène importante. Je trouve que c'était une scène importante pour moi. T'étais pas là forcément, mais.
Parce que faut pas, là, ça fait déjà 20 minutes de fiction. Vas-y. On avance, hein, on doit.
Mais je sais pas, vas-y, Manu, je développe.
Moi,
c'est les scènes qui me plaisent en jeu de rôle. Donc...
Ouais, sauf que finalement, c'est attendu pour ce type d'histoire. Et pour moi, la scène était cliché. Et voilà, je trouve que plusieurs fois, le jeu nous a poussé vers ce genre de truc cliché. Alors, quand Romaric dit « Oh là là, oui, c'est le frère, c'est la sœur, ils sont très liés, c'est à protéger », pour moi, la situation est vraiment trop facile pour pouvoir porter la moindre charge émotionnelle.
Mécaniquement, il y avait quelque chose qui faisait que c'était plus difficile de tuer la sœur d'un PJ que de tuer n'importe qui.
Pas la sœur d'un PJ, c'est la sœur d'un PNJ.
Oui, enfin, je veux dire, parce que je parlais à Fabien, en fait, excusez-moi.
Une des choses, justement, qui me... Enfin, tu vois... Donc c'est un système dit générique, c'est-à-dire qu'en fait il fait surtout très bien du combat. Et le problème c'est que là, typiquement, j'aurais vraiment aimé avoir un système type comme ceux qu'on a dans Bliss Stage, dans les cordes sensibles,
dans Dogs,
qui permettent de gérer des conflits psychologiques, moraux, justement, tu vois, ou des conflits, des conflits moraux. C'est-à-dire que quand tu prends une décision, ça a des conséquences sur la suite, pour dire les choses rapidement. Ouais. Et ça, c'est un peu dommage que ça n'ait pas été là dans le système, parce que j'ai l'impression que pour un jeu comme Plagues, des conflits de type de zombies, comme ceux qui ont été développés ensuite par des jeux vidéo comme Walking Dead. Il y a plein de fictions avec des zombies où ils développent ce genre de dilemme et de conflit.
Et le plus intéressant, en fait, c'est ça. C'est pas la lutte armée contre les zombies. Ça, c'est juste du bâchage de masse.
Voilà. Et ça, on en aurait vraiment besoin dans Plagues. tu vois, justement. D'accord. Parce qu'il y a des zombies, parce qu'il y a tout un choix du genre, est-ce qu'on peut faire rentrer ces gens, est-ce qu'on peut pas, est-ce que c'est, ça pourrait être des collaborateurs, on le soupçonne d'eux, enfin, cette espèce de paranoïa. Et c'est dommage que Plagues ne se dote pas d'un système qui permette de faire ce genre de choses.
Alors, ça, connaissant aussi les habitudes de jeu des joueurs qui ont un petit peu créé, participé à la création, ça, c'est qu'en fait, étant des rôlistes entre guillemets classiques, ils estiment que c'est aux joueurs de faire l'effort de jouer son personnage à ce moment-là et de jouer les retombées seul, et qu'il n'y a pas besoin d'un système pour gérer ce type de conflit, puisqu'il incombe à chaque joueur de jouer lui-même son personnage.
C'est un vieux débat. Moi ma réponse, c'est toujours dire que oui, mais en réalité, le système peut t'aider à sublimer les choses, à amener quelque chose de beaucoup encore plus intéressant.
Emmanuel.
Et à la limite, même si le système ne le fait pas, ça pourrait être pas grave si le monde proposer quelque chose qui mette l'accent dessus, que par exemple dans la structure du Havre, il y avait des instances pour essayer de déterminer si on avait des collaborateurs ou pas, pour décider si telle ou telle personne on la faisait rentrer, pour punir justement un comportement de protection d'un proche, etc. Enfin, le truc, c'est que vraiment là, c'est tellement simpliste dans la façon d'être géré que ça ressemble à des films qu'on a vus 100 fois, à des livres qu'on a vus 1000 fois, lu 1000 fois.
Alors ça, c'est le cas pour 99% des histoires de zombies, hein, après. Et des livres, et des jeux, et de tout ce qui raconte les zombies. Comme tu dis, là, c'est des clichés, mais tous les trucs de zombies se retrouvent
à faire
ça.
Ouais, alors je vais peut-être...
Je regarde dans le Metfan aussi, hein, les histoires de nains, d'elfes, de dragons, c'est toujours cliché. Hein.
Je vais peut-être finir ce podcast en disant, à un moment ou un autre, que est-ce que ça vaut le coup de faire un jeu de rôle sur les zombies en s'arrêtant à ce stade-là, quoi.
C'est vrai qu'à chaque fois, chaque film qui est fait sur les zombies ou chaque fiction qui est faite sur ce type de thème essaye d'apporter quelque chose. 28 jours plus tard, tu vois, il apportait vraiment la dimension psychologique.
Alors, clairement, Plagues ne cherche pas à apporter cette dimension psychologique. Je dis juste que ce serait intéressant que le jeu puisse le faire.
Non, mais moi, j'avais l'impression que Plagues, dans la description que tu en as faite, était censé apporter une espèce de renouveau du Metfan à travers la vision des zombies pour expliquer la décadence des nains, des elfes.
C'est pas tout à fait ce que j'ai promis. Hein. C'est ça, c'est toi qui le...
Non, c'est moi ce qui m'a semblé à la première. J'ai pas dit que c'était toi qui avais dit ça. C'était à la description, voilà ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, ah, c'est ça que ça va apporter. C'est-à-dire que ça va, entre guillemets, croiser... l'aspect moderne du zombie avec dans le médiéval fantastique, excusez-moi, j'essaye de trouver aussi mes mots, dans le médiéval fantastique, très souvent la thématique du déclin est abordée. C'est-à-dire qu'on est souvent jouant des peuples déclinants, les hommes confrontés à un problème tel qu'ils sont dans le déclin, les elfes qui vont disparaître, les nains qui sont à la recherche de leur maison. Voilà. Ouais. On est souvent dans une espèce de... Alors, Manu.
Ouais, moi je pointais à mes camarades là parce que j'ai lu en tout début du podcast la petite note d'intention. Effectivement, l'intention, elle est là de dire on est effectivement plusieurs années après l'apocalypse, on est en plus avec un monde originel qui n'est pas notre monde à nous mais qui est du Metfan. Et donc on a eu envie de découvrir et de creuser ce que ça pouvait faire. Et je trouve la note d'intention super. Et effectivement, sur la note d'intention, j'ai vachement envie de découvrir le truc. Mais. En tout cas, sur ce one shot, je l'ai pas senti.
Des zombies avec de la fantasy, tu vois, ils précisent pas.
Ils disent que c'est à vous de faire le boulot, quoi.
Non, ils disent non, c'est
si,
pas
si
vrai.
Si c'est la fin, c'est à vous de jouer. Hein.
Non, c'est à vous de jouer, c'est pas tout à fait la.
Alors, lis la phrase juste avant.
Ouais, du coup, lisez un peu parce que sinon, là, vous redonnez une interprétation.
Tout est parti. Avant propos de l'auteur, tout est parti d'un jeu de mots débile, Dawn of the D&D. Donc. Imaginez un groupe d'aventuriers bloqué dans un supermarché d'objets magiques alors que tout le monde est envahi par les hordes de morts-vivants. Que ceux qui ne connaissent pas Dawn of the Dead de Romero s'arrêtent là à y voir le film, son remake, et reprennent la lecture. Les autres personnages doivent survivre, ne pas se faire mordre et finalement tenter une sortie. Bref, à la base, l'univers est une sorte de blague, un gros clin d'œil. Mais avec le temps, l'idée a fait son chemin et le mélange fantasy et zombie s'est imposé. À quoi ressemblerait un monde classique médiéval fantastique 150 années après une invasion de zombies de morts-vivants, pardon, contagieux. Plagues était né d'abord en PDF avec le système D20 et maintenant en version papier, en version DK. Mais Plagues DK est plus qu'un simple changement de système, c'est le fruit d'une collaboration acharnée avec John Doe, en la personne de John Grumph, de corrections multiples, d'un tas de monde, d'illustrations abondantes par les meilleurs artistes, si soyez pas modestes ou déchirés. Bref, c'est le travail de toute une équipe. Pour vous, ça signifie plus de matériel, plus de profondeur dans l'univers, plus de scénarios et des points de vue multiples. Et puis à présent, il y a vous. Oui, vous, là. Ce petit univers est là, est à vous, pour vous et par vous. Par vous, oui. Parce que vous allez en faire ce que vous voulez et créer vos propres Plex DK. Bah oui, au boulot, c'est à votre tour de jouer. Alors, bonne lecture et bon jeu.
Il y a quand même cet aspect 150 ans voilà, après, il faut qui pas est normalement censé être original.
Mais il ne faut pas faire dire au jeu, il ne faut pas demander au jeu plus qu'il ne...
Original, non.
Simplement, c'est vrai
je ne parlais pas de ce que le jeu disait. Je te disais ce que moi, mon ressenti à la lecture me disait. Voilà, je disais, voilà, on va aborder le déclin sous l'aspect des zombies. Et je trouve ça vachement intéressant. Et de la cendre et tout ça. Voilà, d'ailleurs, Magic l'Assemblée le fait très bien aujourd'hui.
C'est pour ça qu'en fait, ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, il y aurait des choses vraiment intéressantes à creuser en plus dans Plagues et à aller chercher au-delà justement de cette blague de départ. Et que c'est un peu ce que j'aimerais discuter, tu vois. Bon, sur quoi on peut avancer. Donc je parlais à l'instant par exemple.
Donc la critique de Manu porte très bien, c'est-à-dire que pour le moment, le jeu ne permet pas, ou en tout cas le système ne permet pas de jouer des choses qui
mais
sortent.
Mais c'est pas ce qu'il promet non plus, tu vois.
Mais l'univers promet des choses.
Ouais. En intro, je tiens à dire que quand même, enfin en intro, on a dit que ça rappelait Games of Thrones, mais faut pas oublier, enfin je crois que ce jeu est sorti en 2009, c'est ça?
2007.
Donc 2007, c'est une époque où je veux pas dire, mais Games of Thrones, personne connaissait ça. Donc des zombies à l'époque Medfan, personne, enfin je crois, hein, moi,
il y avait déjà jeux de plateau,
j'avais jamais entendu quoi que ce soit à l'époque qui était zombie à Medfan. Peut-être qu'il y a des gens, mais en tout cas autour de moi, personne. Hein.
Toutes les éditions de Donjons et Dragons.
Zombies en Medfan,
mais
il y en avait
dans Medfan. Mais c'était pas le cœur du jeu, quoi.
Attends, excuse-moi.
Pas de façon aussi systématique.
Magic l'Assemblée, Ice Age.
Un jeu de rôle.
Okay,
est-ce
d'accord.
qu'on pourrait revenir un peu à la partie ?
Finir de raconter la fiction, mais genre pas en rentrant dans le détail.
Un peu plus dans un avancement. Donc vous voyagez, vous croisez plusieurs fois des fantômes dans la cendre. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ça ? C'est plus des trucs que j'avais apporté moi. C'est pas
alors, il y a eu un épisode où on s'est retrouvé face à un personnage assez étrange qui s'adaptait aux besoins, aux désirs des voyageurs. Je sais pas si ça fait partie de la base,
non,
ça m'intéressait de savoir aussi.
Moi, je me demande si apport, plutôt que de raconter la fiction, c'est-à-dire on comprend bien que c'est un voyage, il y a des zombies, ça va.
Pour la faire compte, on a eu 2-3 péripéties, des illusions, des créatures, on est arrivé à une ville, on a eu une baston finale, voilà.
Je te propose un truc, est-ce que ça vous dirait pas plutôt de raconter la scène peut-être qui vous a le plus touché, et inversement celle qui vous a le moins plu, et de faire un tour comme ça et de voir, voilà, tu vois, pour raconter la fiction, j'ai envie de dire. Si ça vous intéresse de le faire. Manu, est-ce qu'il y a une scène qui t'a particulièrement plu, te dit, ah ouais, là il y a du potentiel, ouais, j'ai l'impression que c'est non, t'as l'air de dire, bon, cette partie...
Moi je dis rien, mais Manu, j'ai eu l'impression que tu te faisais chier pendant toute la partie, quoi.
Ouais,
d'une violence, j'étais là.
Je me suis beaucoup posé la question souvent aussi. Ouais.
Ah non, pas du tout.
Ah ouais, c'était une impression parce que tu étais souvent passif dans les actions. En plus, nous on sautait de joie au moindre 20, toi vite fait, quoi. Pourtant, j'ai déjà joué avec toi, je sais que t'es capable d'être hyper enthousiaste.
Ouais, en fait, moi pendant cette partie, j'ai eu beaucoup, vous savez, le petit ordinateur qui fonctionne, et j'ai eu l'impression que, à la fois moi-même, et puis à la fois vous, et Fabien aussi, alors que j'ai pas eu beaucoup en MJ, mais c'est vrai que les fois où j'ai eu Fabien en MJ, c'était. Émotionnellement très intense. Franchement, ça m'a toujours beaucoup marqué. Et là, j'avais l'impression qu'il partait dans des facilités de MJ, alors classique, mais en même temps, c'est con de ma part de dire
et
classique
c'est un
parce
genre
que
classique,
je
hein.
Oui, mais je ne joue qu'à ça d'habitude. Et que moi, j'avais des réflexes. À plusieurs moments, j'étais déchirée entre deux positions parce qu'il y a des moments où, par exemple, quand il s'agit de te faire rentrer dans le Havre,
Maxime,
j'ai eu le réflexe de dire, bah oui, c'est un PJ, de toute façon on va pas le laisser dehors, et à plein de moments c'est revenu pour moi comme ça. J'ai eu du mal à me débarrasser de ces réflexes de dire, bah oui, on est une table de PJ, et donc ce qu'attend le MJ, ça va être plutôt ça, ce qui va permettre de donner du jeu, ça va être plutôt ça, etc. Et c'est super rare que ça m'arrive, et pourtant les jeux de rôle classiques, je fais presque que ça, quoi. Donc
au final, ce que tu n'as pas eu de scènes qui t'ont marqué spécialement. Est-ce qu'il y a une scène par contre qui t'a particulièrement marqué de façon négative ?
Si. Il y a eu des belles scènes. La scène de l'illusion, moi, m'a beaucoup plu. En plus, a donné une petite dimension, réfléchir le fait qu'on était vraiment des créatures un peu atypiques avec. avec potentiellement
la scène de l'illusion dans la cendre, c'est ça?
Ouais.
En fait, il y avait un
spectre dans la cendre.
Il y avait un spectre. Ça, c'est un truc que j'ai repris pas directement de Plagues, mais d'un autre supplément qui était le bestiaire d'Eka, qui était sorti à un moment où il y avait une sorcière des sables. Et là, le besoin que je lui donnais à ce fantôme, c'était d'être avec d'autres personnes. Mmh. Et donc, il y a ce personnage qui, alors que vous êtes perdu dans la cendre au milieu de la nuit, vous accueille chez vous, vous donne à manger, vous réchauffe, prend soin de vous. Et en fait, mais parce qu'il a besoin de vous dévorer d'une certaine manière. Mmh. Quoi. C'est-à-dire,
un vampire émotionnel. Encore.
Un peu ça. Et quand vous êtes
un sélénime.
Et quand vous êtes parti, il pleurait à chaudes larmes parce que c'était terrible pour lui de vous voir quitter l'endroit. Quoi.
J'ai beaucoup apprécié aussi les moments d'organisation où le Havre qu'on est censé aller sauver se fait attaquer. La façon dont ça s'est géré entre les personnages, j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper intense. Mais c'est pareil, toujours avec un regard un peu d'analyse, de dire « Ah bah oui, là, la table fonctionne bien, c'est bien. » Mais du coup, c'est un peu frustrant de pas pouvoir se détacher ça et de le vivre complètement. Je sais pas, je suis passée à côté de l'immersion dans ce jeu-là. Mais alors après, je me suis pas ennuyée. Je veux dire, il y a aucun moment où j'ai passé un mauvais moment et où j'ai eu peur que... Alors ça m'embête que vous ayez eu cette impression-là parce que ça nuit en plus à l'immersion de l'ensemble de la table et au plaisir de tout le monde. Donc, toutes mes excuses. Mais non, je...
Passe le micro à Natacha, elle va nous raconter sa scène.
Alors, avant de les... J'en ai deux ou une. Avant de les raconter, j'ai l'impression, dans ce qui m'a marqué, que du coup, c'est pas le jeu qui le permet, c'est notre imagination de joueur ou l'imagination de Fabien Meneur. Et que...
Natacha.
Le jeu tout seul, je sais pas, voilà... Quelqu'un qui n'a pas l'habitude du jeu de rôle, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si ça aurait pu permettre quelque chose.
De toute façon, on n'est pas là pour juger le jeu, on est là pour juger la partie qu'on a réussi à faire.
Ah, c'est pas sûr. On est là aussi pour discuter du jeu.
Ouais, mais bon. Moi, je pense qu'on peut surtout parler des parties, quoi. Parce qu'évidemment, avec d'autres joueurs, ça n'aurait pas fait pareil, quoi.
Ça y est, c'est le moment où on discute l'émission One Shot, là, ça y est.
Voilà,
ça. Ah, bah alors, je me réveille.
Mais on va pas...
L'émission One Shot a-t-elle du sens.
On va pas faire ça, donc... On discute bon, voilà. Ce que le jeu nous a permis de faire.
Voilà. Oui, parce que du coup, effectivement, donc la scène de la sorcière de sable ou de cendre, du coup, en l'occurrence, m'a plu. Et la scène finale de la liche commandant des armées ennemies décapitée m'a aussi pas mal impressionnée. Mais ça, c'est l'initiative de Jérôme, c'est...
Ouais, tu t'es pas sûr que ce soit grâce au jeu que ces scènes aient pu émerger. Tu penses que c'est peut-être un peu grâce à... Mais comme le disait Maxime tout à l'heure, c'est un jeu aussi, s'il permet de faire émerger ce type de choses, c'est qu'il peut être intéressant, tu vois. C'est à la fois le jeu, à la fois vous.
La scène de Jérôme, elle est due au fait que sur sa feuille, il est marqué la capacité de décapitation.
Fais la différence entre les mécaniques résolution et le jeu, Natacha, peut-être. Fais la différence peut-être. C'est-à-dire que les mécaniques t'ont pas poussé peut-être à faire ces choses-là, mais l'univers, quand même, a été... Il n'y aurait pas eu de liche, de roi liche dans la cendre s'il n'y avait pas eu Plagues, tu vois. C'est quand même eux qui ont inventé ce concept de la cendre.
Oui, mais après, Maxime, je voulais pas le préciser, mais c'est moi qui ai suggéré la mort classe de Jérôme. C'est pas le jeu, quoi. C'est pas le jeu qui dit, bah voilà, la maladie, à un moment donné, va le ronger.
Je le dis, mais pour préciser ce qui s'est passé, tout à la fin, il y a la liche qui apparaît et Jérôme qui dit, bon, bah, je mets tout, hein, j'y vais vraiment à fond.
Ouais. J'ai aucune raison de vivre plus longtemps. C'est le bon moment d'y aller, quoi.
Il utilise son trait.
Je l'accepte.
Son trait décapiteur pour décapiter la liche.
Et on a fait le choix de tricher au dé en plus, hein, je précise. Mais...
un tout petit peu.
Alors, il faut juste préciser qu'il a fait quand même un vin naturel à ce moment-là.
Ouais.
Et qu'il a fait une très
qu'il a fait un jet sur les 3D6, il y avait 6, 6, 5, plus un 6 à côté.
Donc, dans le jet de sauvegarde de la liche, à la fin, on a un tout petit peu baissé le niveau de la liche.
Parce que d'après les règles, il aurait quasiment jamais pu la tuer.
Mais vous savez, c'était
tellement badass.
Et le personnage, Natacha lui proposait à ce moment-là, a proposé à Jérôme à ce moment-là, que son personnage se transforme complètement en pierre et reste figé dans ce coup final. Comme une statue. Quoi.
Oh là 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 là, ça c'est beau hein, quand même. C'est bien.
C'était cool.
Mais tu vois,
c'était cool.
Oui, mais est-ce que Natacha aurait pu proposer cela s'il n'y avait pas eu écrit dans la bague de Plagues que les nains souffrent d'une malédiction qui les change en pierre? C'est là le truc, tu vois. Malgré tout, tu dis oui, j'ai eu une bonne idée à ce moment-là. Oui, mais l'idée, t'as quand même été très largement inspiré par l'univers des amis de chez John Doe. Et donc, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est toujours. Oui, il y a les joueurs, il y a la partie, il y a aussi le jeu, il y a aussi l'univers. L'univers, ça fait aussi partie des règles du jeu. Ce sont des règles.
Oui, si ce n'est que le système, quand même assez terre à terre, incite plutôt système à essayer d'avoir.
Système de résolution.
Oui.
L'univers fait système. Je le répète, je le dis. Le fait que les nains se changent en pierre lorsqu'ils vieillissent, c'est une règle. Alors, ça fait aussi partie du
est-ce
système.
Qu'on pourrait passer à Jérôme et Maxime, peut-être, aussi, pour qu'ils répondent à ta question?
Bien sûr. Maxime, scène peut-être positive, négative. T'as bien aimé la scène avec le frangin qui essaie de protéger sa sœur, j'ai eu l'impression.
Oui, j'ai plus préféré la scène avec la créature, avec la sorcière aussi. Donc parce que c'est le moment où j'étais vraiment immergé dans mon perso.
Ok.
Et où j'ai vraiment gueulé.
Elle te faisait des avances aussi.
Ouais, ouais, elle me faisait des avances. Mais moi, au bout d'un moment, j'ai bien aimé parce que c'est le moment où, en fait, mon perso, il avait un peu son côté sombre qui arrivait en mode créature dégueulasse, bande d'impurs. Enfin, dégage. Enfin, c'est le moment où j'ai pas vraiment fait de différence. Enfin, j'étais dans le perso à ce moment-là, quoi. Ça, c'était permis par tout ce que tu faisais, quoi. Enfin, par tout ce qui s'est passé autour de la table. Moi, j'ai bien aimé. Au-delà de ça, j'ai globalement bien aimé le jeu, mais dans un plaisir. Alors, j'aurais pas d'outils GNS, de toute façon, le GNS est mort. Mais j'ai bien aimé tout le. J'ai bien aimé le fait de lancer des dés, en fait, tout bêtement, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et en plus, j'ai toujours été chanceux comme pas permis.
Donc, c'est ce que dit Pierre, ça. Mais...
Oui, voilà, mais bon, il faut bien maintenir la légende.
Hein. Ouais, bien sûr.
Je sais pas, j'ai globalement bien aimé la partie. Il n'y a pas de scènes qui m'ont vraiment fait me dire là, je me fais chier, j'ai envie qu'on avance. Clairement. À part peut-être à la fin où tu nous posais des questions. Des fois, je me dis mais pourquoi tu nous poses ces questions? Genre, vous arrivez, on avance, comment? On met un pied devant l'autre. Je rigole, mais il y avait
ces moments. Oui, mais est-ce que tu veux passer par le tunnel?
Il y avait ces moments-là où je me disais, en fait, où j'avais l'impression qu'en fait, ce que tu nous proposais comme alternative, de toute façon, ça ne change rien. On savait que, oui, bah, c'est bon, on va y aller, juste raconte ce qu'il y a là-bas, quoi. Parce qu'on a compris qu'il y a un truc là-bas à voir, juste montre-le nous, quoi.
Juste fais-le.
Ouais, just do it, quoi.
Mais de la même façon, quand tu nous laisses avec un personnage totalement éploré, on sait bien qu'il n'est pas question dans la partie qu'on reste, qu'on décide de partir sur cet arc narratif.
Oui, oui, ça, de ce point de vue-là, j'ai quand même prévenu.
C'était un
scénario que, enfin, tu vois, j'ai joué carte sur table.
Oui, non, il y a juste ces petits moments-là, ces moments où il y a clairement les failles du tradit, selon moi, qui ressortent, où tu sens qu'on sait où ça veut aller et qu'on ne fait que. On ne fait qu'y aller et éventuellement on raconte un petit peu comment on le fait pour se faire plaisir à raconter quelques actions sympas.
Participationnisme, c'est ça, dans le truc impossible dans le petit
animal. Ouais, voilà.
Participationnisme parce que justement il n'y a pas d'illusion, contrairement à l'illusionnisme.
On rappelle.
Je vous dis, oui, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. C'était clair dans l'esprit de tout le monde.
Très bien.
Jérôme.
Alors, j'ai l'impression que tu as un avis plus positif aussi parce que tu avais un bon personnage.
Moi j'avais un bon perso, je me suis bien amusé à le jouer. Les scènes que j'ai préférées, c'est toutes celles qui ont été dites. Mon moment préféré, c'est clairement le moment où les deux dés de crasse que j'avais économisés pendant tout le long pour planter Maxime dans le dos à la fin, j'ai préféré les utiliser pour tuer la liche ennemie parce qu'il y avait le général ennemi à portée de main.
Quel bel élan d'humanisme!
Oui, mais c'est marrant quand même. Ça implique une espèce de. Il ira au paradis du dieu de Maxime, tu vois. Ça. Et ça implique une espèce de rédemption. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, la scène est belle parce qu'il y a un élément mécanique qui la rend belle. Pour le coup, là, on a un vrai exemple de scène qui réussit grâce au système.
Et un petit peu de trichouille de la part du MJ.
Pas en fait. Parce qu'en fait, j'ai juste utilisé ma technique Vorpal, l'équivalent du Vorpal dans Donjons et Dragons. Je te tape, ça fait un seuil de difficulté. Si tu le rates, tu t'es décapité.
Ah oui, mais le fait d'avoir tes dés de crasse, de te dire ça, c'est mes dés de crasse, je les garde pour cette espèce d'enfoiré qui est juste à côté de moi, et au final, de les utiliser pour autre chose. C'est quand même, et de dire, j'en ai tiré du plaisir, c'est-à-dire parce que je trouve que c'est signifiant, ça a du sens en fait dans la fiction, tu vois. D'utiliser finalement des dés de crasse pour sauver celui contre qui tu voulais lancer ces dés de crasse, ça a un sens, je trouve, qui est intéressant, et c'est aussi ce qui fait que c'est. Non, ah non, tu sais pas de ça.
Non, mais je vois ce que tu veux dire, si, c'est intéressant comme truc, ça sauve un peu le. Parce que, ouais, si. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça a vraiment induit une partie de mon plaisir dans la partie, quoi. J'ai regardé mes deux dés de crasse qui me restaient tout le long à chaque fois que j'en dépensais ou que j'en perdais. Je faisais bien gaffe à ce qu'il m'en reste deux. Et c'est vrai que j'ai. Non, mais.
C'est bon.
Je regardais Maxime en coin régulièrement.
Ah, ça c'est bon, bah voilà, ça c'est excellent ça.
Mais c'est vrai. Mais alors, mis à part ces dés de crasse qui d'ailleurs ont donné le nom au DK, hein, parce qu'apparemment c'est crasse avec un K. Le DK, je n'en vois absolument pas l'intérêt.
Alors
Max, oui, je tiens à dire juste qu'il y a les dés de crasse, tu les as quasiment jamais utilisés, toi.
Non, effectivement.
Le MJ, toi, Fabien, MJ.
Bon.
Fabien.
Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, pour répondre un peu à la question de Romaric, parce qu'après tout, j'ai aussi le droit de dire quelle était ma scène préférée et quelle était...
Alors, complètement, je comptais justement finir par toi.
J'ai eu quand même l'impression que vous êtes vraiment amusé dans la partie.
Après, moi je me suis abusé, c'est juste qu'il y a des problématiques que j'aurais bien aimé, mais ça peut-être être au fond moi one shot encore une fois. Il y a des problématiques que j'aurais aimé aborder et qui n'ont pas forcément été.
D'accord.
Enfin, tout à l'heure, vous parliez des retombées éventuelles de choix, de dilemmes, tuer la sœur ou pas. Ouais. Je me suis dit, pourquoi par exemple, moi j'ai fait des trucs horribles tout le long de la partie, j'ai enfermé à l'extérieur une mère et sa fille pour sauver le reste de la population
enfermé dehors.
Voilà, avec les morts-vivants. Et je me suis pourquoi ne pas tout simplement intégrer au système que quand on fait ce genre de choses, quand on tranche dans un sens dans le dilemme, les créatures magiques, en tout cas pour les humains, je sais pas trop, mais les créatures magiques aient une avancée dans leur maladie. Enfin, je sais pas, des taches noires qui apparaissent sur le corps de mon personnage en plus.
S'ils avaient tout intérêt à être gentils, je pense que tout le monde deviendrait vite un bisounours, quoi.
Bon, en tout cas, la question de Natacha est intéressante.
Mais Manu, là, pour le coup, ouais, c'est vrai que ça fait partie des moments assez jouissifs quand t'as enfermé la mère et la gamine dehors. En plus, le fait que je voyais bien que Jérôme, effectivement, lançait les petits clins d'œil sur fond de « je vais finir par planter Maxime ».
Et à part ça, les humains, c'est les méchants qui ont fait un jeu de suite, quoi.
Et parce qu'il y a eu deux, trois petites remarques et tout. Et mine de rien, ça fait partie des trucs que je m'attendrais à voir beaucoup plus. Des moments un petit peu trashouille. Il est pas très crasseux comme jeu, quoi. La description, oui, mais d'accord. Ça manque un peu du... Enfin, pas de violence, mais de...
J'imagine
un truc un peu glauque, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est dans la description. Enfin, moi, les maladies des trucs, des peuples, ça m'a fasciné dès le départ. Et je me suis dit, mince, c'est pas suffisamment joué, quoi.
Mais tu vois, on tripe sur le déclin.
Alors, ouais. Alors, donc, là aussi, à nouveau, plein de choses qui se disent. Pour répondre rapidement à Natacha, évidemment, la réponse traditionnelle, ce serait de dire, ah bah oui, mais c'est OMJ de faire l'effort. Et la réponse moins traditionnelle, enfin, le système does matter, ça se dit oui, il faudrait que le système nous donne l'occasion d'aller chercher ça, justement, par exemple, avec l'exemple que donnait Natacha, que je trouvais être intéressant.
Nous inspire, dire, par nous exemple, invite à
le faire. Tu fais un truc dégueulasse quand tu es une race magique, eh ben, le MJ peut décider que ta maladie progresse, ou en tout cas que ça a une répercussion sur. Ce qui est d'ailleurs une vieille théorie du Moyen-Âge, il me semble. Que
la corruption.
Ta corruption morale se reflète sur ta corruption. Non, c'est peut-être un truc de la Renaissance. Bref, enfin, donc là, c'est un truc qui est une belle idée parce que c'est quelque chose qui est présent dans notre culture. Tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression quand même que vous êtes vraiment amusé.
Après, oui, enfin, quand même.
On a eu pas mal d'éclats de rire. Enfin, vraiment.
Plaisir ludiste, clairement.
Là, j'ai eu l'impression que c'est un peu le tour des figures d'enterrement parce qu'on est claqué.
Mais j'ai adoré
l'univers.
Je me suis amusé comme je m'amuse dans n'importe quel système tradi avec des dés où je m'éclate quand il y a des bons lancers de dés.
Voilà.
Mais voilà, mais par rapport à ce que le jeu me permet de spécial. Je suis dubitatif.
Et aussi le fait d'avoir une table avec des gens fun, et je pense que j'aurais joué ça en convention avec des vieux rôlistes désagréables, je me serais barré au bout de 10 minutes.
Non,
non, je fais dans le cliché à fond, mais vous voyez ce que je veux dire.
Ça, c'est déjà un peu plus clair. Okay. Votre tour un peu sec était plus pour le jeu, pour la partie, d'une certaine manière. Enfin bon.
Oui.
Maintenant,
moi en fait, c'est surtout contre. Parce que le jeu pour moi il est découpé en deux. Il y a deux livres, il y a le bouquin DK2, il y a le bouquin Plex.
Voilà.
Et le bouquin Plex a l'air vachement bien. Enfin, tout cet univers et tout ça, moi c'est le système vraiment avec
ce dévin
simplifié, je ne le comprends pas.
C'est intéressant que tu amènes l'idée parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais aussi discuter. J'en parlais un peu au début. J'ai un peu toujours le même problème avec les systèmes. En particulier les systèmes de JDR en général et en particulier les systèmes génériques.
T'as juste pas dit les scènes que t'aimais au final. Et pas aimé.
Oui, on y reviendra.
Ok. parce que donc le problème que j'ai avec les systèmes génériques est, qui est que ben t'es tout le temps en train de bidouiller un peu. Alors le système DK c'est quelque chose de tout à fait voulu, mais si tu veux le problème c'est un peu voilà, tu fais beaucoup d'efforts pour acquérir le jeu, pour bidouiller le jeu à ta sauce, mais quand tu l'utilises t'as pas un outil qui te permet de répondre aux questions que tu te poses pendant la partie, tu vois. Typiquement le choix moral dont on parlait tout à l'heure. Il y aurait vraiment deux éléments que je trouverais super intéressants à approfondir pour la suite de Plagues, qui sont donc d'une part les dilemmes moraux que d'une manière ou d'une autre ça se prolonge dans le jeu, qu'on en profite mécaniquement. Et j'en avais parlé un peu, enfin on l'avait un peu suggéré dans le jeu. Je pense qu'en termes de contemplation, il y a des choses vraiment très très belles à créer. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, soit la création de lieux, soit les scènes que le MJ est invité à créer puissent être des scènes très belles. Une idée que j'avais eue en travaillant sur le jeu, en travaillant mon scénario, je ne l'ai pas fait jouer là, mais c'est qu'à un moment, les personnages marchent la nuit ou tôt le matin dans la cendre. Et d'un seul coup, il y a un grand coup de vent.
Et le
ciel se... Non, on est encore la nuit. Et le ciel se découvre. Et d'un seul coup, ils voient des étoiles. Quelque chose qu'ils n'ont plus vu depuis plusieurs années. Mmh. Et là, le MJ peut dire, bon, ben, ok, vous récupérez tous vos points d'énergie, par exemple. Tu vois.
D'accord.
Ou vous récupérez... Enfin, qui est une manière... Le MJ peut amener une scène sympa. Et puis, c'est un avantage mécanique. Et c'est au choix du MJ. Si on veut rester dans une démarche plutôt tradie, quoi. Tu vois ce que je veux dire.
D'accord. Emmanuel.
Ouais, je sais pas si ça ferait pas un contraste énorme et même un contre-effet, parce que ce que j'ai remarqué quand même, alors un peu moins Natacha, mais les deux garçons, Maxime et Jérôme, ont quand même dit que leur moment préféré, ça avait été par rapport au côté jouissif du tap-tap, des gros scores rendés et compagnie. Donc. Le plaisir du jeu est pas vraiment dans l'ambiance, c'est contemplatif de toute évidence.
Comme je dis souvent, moi je prends mon plaisir là où il est, quoi. Là où je peux le trouver. Et autant j'ai plaisir avec ces jeux-là, autant je pense que j'aurais plaisir à Plague, mais là les deux ensemble, moi pour moi ne vont pas. D'accord. C'est-à-dire que tel que c'est présenté actuellement, le système permet uniquement de prendre du plaisir à lancer des dés de manière rigolote. Il permet pas actuellement de prendre du plaisir avec le côté zombie dramatique et compagnie.
Je trouve l'univers vraiment très beau. Et...
Oui, moi je trouve que ça aurait justement mis en valeur ces scènes d'action, de la même manière que dans les films toujours d'action, bah, y a aussi des moments calmes et enfin, je sais pas. Justement, ça aurait mis en valeur la nostalgie, en fait. Ouais. Oui, il y a moyen que ça soit bien.
On sent bien.
J'ai envie de poser une question qui me brûle les lèvres depuis qu'on a fini la partie. Il y a une version Donjons et Dragons de cet univers ? Parce qu'en fait, je préférerais, moi. Hein. C'est peut-être à dire, mais...
Au départ, c'est un système... il était publié en PDF, comme il disait dans la note d'intention, ouais. En système D20.
Ouais, mais vraiment, donjon avec des niveaux et tout, tu crois ?
Je sais pas.
Ou un D20 comme je ça, complètement épuré.
Alors pourquoi, Jérôme ? Parce que là, faut argumenter quand même.
Parce qu'en fait, moi, j'ai été biberonné au D20 Donjons et Dragons. Et quand je vois ce système D20-là, je...
Tu trouves qu'il y a moins de choses à faire dedans ? Tu trouves que le système Donjons et Dragons, le système D20 pourrait permettre de plus mettre en valeur les vertus poétiques
et contemplatives ?
J'ai
l'impression qu'on a rajouté de l'eau froide et qu'on a inventé l'eau tiède, en fait.
Ouais, bah,
c'était vachement compliqué. Là, on a rajouté un peu plus simple, mais c'est pas mieux pour autant, parce que c'est toujours autant le bordel. Le bordel, je me comprends, c'est pas compliqué, mais...
En soi, ça fait plaisir quand même d'avoir la résolution du truc, elle se fait en 2 secondes. Moi, à aucun moment, j'ai eu besoin, et pourtant d'habitude, je suis pas doué de redemander au MJ qu'est-ce qu'il fallait que je lance et combien et comment ça se calcule.
C'est exactement comme dans Donj, hein, c'est basé de la même façon. Ouais, mes compétences sont écrites pareil.
Ouais, mais dans Donj, il y en a 40 fois plus et tu te perds dans ta fiche, quoi.
Exactement le même nombre. Alors là, dans Donj 3, par rapport à ce que je vois là, il doit y en avoir à peu près pareil.
Moi, je sais pas, hein, je connais pas le système des 20, pas du tout.
Mais bon, après, ce que je veux dire, c'est que je connais bien le système des 20 et j'ai pas envie d'apprendre un nouveau système qui est le même, en fait. Enfin, si c'est pour réapprendre l'eau chaude,
alors,
ça m'ennuie un peu.
Si on parle spécifiquement du DK ou du DK carré, si tu veux, le DK carré, c'est plus un outil de MJ, voire de créateur de jeu. C'est-à-dire que tu prends un système et puis tu peux le bidouiller à l'infini pour faire plein de trucs différents.
D'accord.
Bon, je pense qu'il peut pas, contrairement à ce qu'il laisse entendre, il ne peut pas tout faire. Tu vois, les dilemmes, par exemple, en bidouillant très fort, il faut vraiment inventer un nouveau jeu. Si tu veux, le livre ne te permet pas de... Mais enfin, tu peux
ils ont prétendu tout faire ou juste de l'aventure?
Je sais plus. En tout cas, ouais, peut-être.
C'est connaissant John Doe, ce sera.
En tout cas, ils font très bien de l'aventure. C'est clair qu'ils font. Ils permettent de faire des poursuites en. Des batailles rangées, des poursuites en voiture, de faire de la magie super cool, de faire plein de types de créatures, de faire plein de races de créatures, de faire des organisations aussi. Mais c'est vrai que, oui, effectivement, c'est plus de l'aventure au sens.
Dans le fond, ce que vous êtes tous en train de dire là, c'est que vous sentez qu'il y a plus, que cet univers a plus dans le ventre que le système DK ne peut vous fournir.
Tout à fait.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que cet univers a énormément, énormément de potentiel et j'aimerais que ce potentiel
soit. C'est excellent parce que quand j'ai rencontré LG, juste une petite anecdote, il me disait exactement la même chose d'un autre univers qu'ils republieront plus tard, qui est Bloodlust. Quand je l'ai rencontré, il était fan de Bloodlust et il venait juste en fait d'acquérir la licence Bloodlust et il me dit mais tu te rends compte, moi je joue à Bloodlust mais il y a tellement plus dans Bloodlust que ce que le vieux système de Bloodlust nous permettait que ça nous a donné envie de faire une réédition. Donc là peut-être que qui sait dans l'édition la future édition de Plagues, il y aura du nouveau et voilà, ils ont
Ce serait cool parce que vraiment il y a il y a vraiment un potentiel énorme et c'est pour ça que j'ai le cul entre deux chaises. Je sais, ça m'ennuie presque de le critiquer ce jeu parce que vraiment
je l'aime exactement la même position.
J'ai aimé la partie, j'ai aimé l'univers, d'esthétique avec les cendres, c'est super cool.
C'est un jeu dont l'univers vous invite à l'aimer, vous auriez aimé l'aimer en fait.
Exactement,
ouais,
c'est ça.
Exactement. C'est un peu comme. Non, je vais pas faire
ça. C'est un déchirement.
C'est un peu comme. J'ai du mal à dire ça. C'est un peu comme du sexe, mais pas top quoi. Tu vois, enfin, mais tu vois, c'est pas un mauvais moment. C'était cool.
On va reprendre la métaphore du one shot.
Voilà, c'est ça. Mais c'était voilà, c'est ça. C'était agréable. C'était pas un mauvais moment. Clairement, je regrette pas du tout ce moment-là. Mais bon, voilà.
Merci pour ce moment.
Mais merci pour ce moment. On va en rester là, quoi.
Ok. Alors dans ce cas-là, je voudrais qu'on tourne le podcast peut-être autrement.
Et là, ça aurait été mieux si on le tourne.
On a bien votre ressenti sur la partie, etc. Maintenant. Qu'est-ce que vous auriez imaginé pour cet univers? Est-ce qu'on pourrait pas tourner le podcast One Shot en playtest, c'est-à-dire se dire tiens, qu'est-ce que vous ajouteriez comme mécanique, comme un peu comme Natacha le proposait tout à l'heure pour les...
Je trouve l'idée de Natacha très bonne.
Déjà, ouais.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait peser un poids moral sur les races magiques, qui reprend le discours raciste des racistes dans tous les sens du terme d'ailleurs, des prêtres du salut, très et bien. Qui d'une certaine manière aussi interroge nécessairement la position des humains, parce que tu vois, les humains, c'est du genre ah ben moi je peux faire toutes les saloperies du monde, tu vois. Ben ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire sur ta responsabilité? Donc ça, je trouve qu'effectivement, une idée comme ça, ça fait partie des trouvailles qu'il faudrait multiplier pour approfondir le...
Moi, je me demande Maxime. Si le système Apocalypse s'adapterait pas un peu plus que le système DK qui t'a...
Oui, le nombre de fois où je me suis dit, là, j'ai envie de faire mon jet de perception juste pour qu'on me prenne des trucs dans la gueule, quoi. Mais non, je fais mon jet de perception parce que je suis aux aguets, parce que c'est mon personnage, parce que blablabla...
Bien sûr, quand je dis sustainability, ça veut dire... modifié pour Plagues, parce que de toute façon le système, oui ok, c'est aussi un système générique, mais clairement dans son système il explique enfin avec le nombre de hacks qui existent. Alors, c'est pas le même jeu, hein, franchement, pour avoir joué à plusieurs jeux, si il est propulsé par l'Apocalypse, c'est pas du tout les mêmes jeux, quoi.
D'accord, parce que du point de vue juste technique, moi ce que j'ai vu de Apocalypse World, c'est souvent de l'hyperdynamisme, ça va très très vite, il faut réfléchir vite et bien, rapidement.
Pas forcément, non, moi, quand je,
c'est mon expérience.
Ouais, des fois c'est juste tu lances les dés et tu lances, tu dis je fais un move, donc je veux faire ça, et en fonction de ton résultat, genre par exemple dans World of Wrestling, tu dois choisir, t'as plusieurs choix, genre putain merde, je dois choisir entre typiquement tu vois Natacha, genre tu lances les dés, tu dois choisir entre ça aurait pu marcher dans Apocalypse War parce que t'aurais pu être je les sauve, mais enfin t'as plusieurs choix à chaque fois dans le système Apocalypse. Alors
je les sauve et je prends pas de tâche, ou je les laisse dehors et je prends une tâche,
ce genre de choses, voilà. Genre t'as trois options quand t'as une action comme ça, il y a ne pas prendre de tâche, sauver les gens, ceci, tu vois, genre. Ouais. Et là t'aurais pu en fonction de, là t'aurais fait une réussite partielle par rapport à ta volonté,
enfin en tout cas il faudrait pouvoir avoir du choix, oui.
Honnêtement,
c'est ce que permet le système Apocalypse, c'est de faire des choix tout le temps, quoi.
Vu ce que vous dites de l'univers depuis tout à l'heure, j'ai plutôt l'impression qu'un système type celui de Polaris de Ben Lehman conviendrait très bien aussi à Plagues.
Ah, ça c'est une question super intéressante.
Peut-être. Juste pour préciser, Jérôme, sur le dynamisme d'Apocalypse World, Poltergeist, qui s'appelait en anglais Murderous Ghost, est un hack d'Apocalypse World.
Non, mais je sais bien, hein, Jérôme. Je dis pas,
du
mais...
tout dynamique. Ouais.
Polaris, c'est une super idée, en fait. Rome, je trouve que ce serait très beau d'essayer de...
C'est ce que vous... Après, c'est ce que ça m'inspire quand vous en parlez.
J'entends souvent ça, et franchement, j'attends que ce soit fait. j'entends souvent « Ah, quand même, la Polaris aurait bien marché ». J'ai l'impression qu'il y a une espèce de fantasme, l'idée de le faire sans dé, et avec uniquement la parole.
Il y a
et que...
tout petit peu de dé, quand même, dans Polaris.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais, non, mais je trouve que dans Polaris, par exemple, un des défauts du jeu, c'est que les héros sont assez standards. C'est-à-dire, ils sont tous... Alors que là, on aurait un héros peut-être un elfe, un nain, peut-être toutes les... J'aime pas le mot.
Bon, le problème
toutes
de...
les espèces pourraient être...
Ouais,
j'aime
le
pas
problème
le mot
de
race.
Romar... De...
Je... Tous les peuples pourraient être représentés.
Pas le problème de Romaric, le problème de Polaris aussi, c'est bon, cette division en scène. Tu vois,
ouais, c'est un peu le problème. Mais tu vois,
mais
quelque
en tout
chose
cas,
comme
moi,
ça.
Moi,
mais c'est une idée, quoi.
Plutôt que de penser... Enfin, je reviens à une idée que...
Natacha va nous quitter...
Je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir avant que vous ayez fini, mais on verra.
J'en sais rien.
À plus tard.
Salut. À plus tard. Tout à l'heure. Bon, très bien. Mais plutôt que de dire quel est le système de jeu qui conviendrait bien à hacker pour ce jeu-là, moi j'ai toujours un peu cette envie de dire quelle fonction. Il faudrait créer un système de jeu spécifique à ce que l'auteur de Plagues, Benoît Atinos, voudrait faire spécifiquement avec ce jeu et voir ce que. Ou les auteurs, enfin la personne qui reprendra le projet, et qu'ils voient quels sont les enjeux qu'ils voudraient créer
Évidemment.
Spécifiquement pour
évidemment.
Son jeu.
Évidemment.
La contemplation, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, et sur la réflexion à Manu, est toujours quelque chose qui est très difficile à mettre en jeu. Hein. Prosopopée y arrive, mais parce que Prosopopée ne fait que de la contemplation, quoi. Donc la contemplation et d'autres choses, c'est pas toujours très facile. Je le sais pour avoir essayé d'en mettre dans Monosatos et ça boite un petit peu pour faire le podcast sur.
Je trouve que je vois en quoi les univers zombies peuvent prêter à la contemplation, mais moi pour moi c'est vraiment pas le cœur quoi. Mais j'ai l'impression que toi Fabien, c'est un truc qui te tient à cœur.
Ouais,
c'est un thème qui te tient tellement à cœur que j'ai l'impression que tu veux dès qu'il y a un truc qui te sensibilise, tu veux y mettre de la contemplation quoi.
Ben
ou est-ce que c'est l'inverse, peut-être que je me fous et qu'en fait c'est l'inverse quoi.
Sans doute, bon, nécessairement si tu veux dans ce podcast, je suis en train de me projeter énormément sur le jeu. Mais ça c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tu vois, il y a plein de choses qu'on voit dans le jeu où on se dit tiens, il aurait énormément de potentiel à exploiter et que les règles ne nous permettent pas vraiment d'exploiter. En même temps, je trouve que pour ce jeu, ça se justifie vraiment de parler de contemplation. Parce que t'as cette cendre qui tombe, parce que t'as vraiment ce monde qui est détruit, t'as des monstres de plus en plus incompréhensibles d'ailleurs qui sortent de la cendre.
Mais de la même façon, on peut peut-être dire qu'en fait, non, la cendre, c'est juste un mécanisme pour la peur. Genre, on voit pas autour de nous et uniquement le jeu est là pour générer de la peur.
D'accord, ouais.
Au lieu de la contemplation. Pardon, Jérôme.
Jérôme,
j'ai une question qui me revient. Je suis allé parcourir un peu Internet pendant une des pauses qu'on a faites pendant la partie. J'ai cru comprendre qu'il y avait une campagne officielle qui était super chiante à rassembler parce qu'elle avait été éparpillée dans des PDF, ça et là.
Elle a été publiée en auto-édition.
Ah, quand même, ça avait été fait finalement.
Je l'ai jamais lu. Donc je peux pas. C'est celle qui commence avec la couronne de cendres, il me semble.
Parce que ça se trouve, elle est vachement bien.
Filme-moi le bouquin parce que.
Ça se trouve, elle est vachement bien cette campagne.
Le premier dedans. Les couronnes de l'esprit. Je sais pas du tout. Écoute, j'avais lu le scénario il y a longtemps. Et j'avais créé en fait mon propre. Enfin, le scénario que je vous avais fait jouer, j'avais créé parce que c'était pour une convention. Donc il fallait que ce soit différent de.
Oui, bien sûr.
Pour faire découvrir le jeu. Je n'ai aucune idée. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut, si elle est intéressante. C'est vrai que tu poses une question intéressante parce que souvent dans des jeux de rôle tradis, qui est.
Voilà.
Les
mots de la bouche.
Ce qui ferait vraiment la force d'un jeu de rôle tradis, c'est une très bonne campagne autour, hein, dans Cthulhu. On a tous notre campagne de Cthulhu préférée.
Il y a plein de jeux pour lesquels. Sans sa campagne.
Il n'y a plus rien. il y a pas mal de choses.
On va devoir faire une pause. Je suis désolé. On va faire une pause. Donc désolé hein, pour ce contretemps technique, c'est mon Audacity qui a grave planté. Vous parliez tous les deux de la campagne.
Oui, on disait que c'est difficile de juger. Souvent les jeux de rôle traditionnels reposent sur une campagne très forte. Ouais. Je connais pas du tout la campagne. J'en ai lu la première partie il y a longtemps et je l'ai jamais joué. Donc
d'accord.
De ce point de vue-là, on ne se prononcera pas. Mais indépendamment de ça, qui est souvent une bonne manière de valoriser un JDR tradi, je pense quand même que tout en restant dans une posture assez tradi, il peut y avoir des trucs pour approfondir les différents aspects là qu'on proposait, c'est-à-dire à la fois les dilemmes et à mon sens la contemplation, en plus de la baston de zombies.
Moi, je me demandais qu'est-ce qui les a motivés à passer du système des 20 à ce système-là. Est-ce que le fait de vouloir simplifier, enfin moi je pense que c'est une simplification.
Je ne sais pas.
Est-ce que ce serait intéressant d'avoir ça, parce que si c'était pour simplifier, c'est peut-être le fait de simplifier les calculs. Pour moi, ça encourage une démarche de, comme tu dis, un peu contemplative, un peu plus dans la beauté des scènes que dans le plaisir d'optimiser un système de résolution. Parce que s'il n'y a pas grand-chose à optimiser, tu te retrouves à juste avoir le plaisir de jouer et de faire du roleplay. Donc rien que le fait de faire ce choix de changement de système...
L'aventure, l'exploration, c'est vraiment au centre des problématiques de John Doe. La contemplation...
Plutôt l'avant, ouais,
un
plutôt
peu moins, mais l'exploration, vraiment.
Disons c'est que j'ai senti que le but du jeu n'était pas qu'on optimise nos combats. Le but, c'est qu'ils aillent vite. Qu'on voit les enjeux, qu'on les résolve et qu'on avance et qu'on explore. Je sais pas comment c'est écrit dans le jeu, mais c'est un jeu qui repose à mon avis beaucoup sur le MJ. Je l'ai vu même dans le jeu, même si on a tout ce background, c'est souvent Fabien qui faisait des propositions du genre, oh, je te propose que ça se passe comme
bon,
ça
ce
et
qui
tout.
Aussi, c'est que ça c'est lié à ma personnalité qui fait que
C'est lié à la posture de MJ, moi je trouve. Moi d'accord. Quand je me retrouve MJ, j'ai aussi cette envie là parce que le fait est que tu as une autorité supérieure aux joueurs autour de la table.
C'est une responsabilité supérieure dans
une responsabilité souvent ouais. le jeu te prête une responsabilité plus importante.
Ouais. Jérôme, tu voulais intervenir.
Non, c'est bon.
Alors moi ce que je vois là-dedans, hein, c'est qu'on est en pleine époque en 2007, c'est ça.
Dis,
on est en pleine époque de ce moment où les rôlistes ont théorisé complètement, ont achevé de théoriser cette histoire de distinction entre d'un côté il y a le système, de l'autre il y a l'univers. Et que du coup, ça c'est vraiment typiquement les jeux dont à une époque on aurait pu dire bon bah c'est le système des cas, et puis maintenant l'univers. Parce que c'était une époque aussi où qu'est-ce qui distinguait vraiment les jeux de rôle ? C'était les univers. Et donc, dans le fond, bah, ce jeu, il souffre de toutes les... bah, tous les jeux qui font cette distinction-là.
Mais en même temps, tu vois, ce que je trouve enthousiasmant, c'est que c'est un univers qui est tellement riche que ça vaudrait vraiment la peine de le retravailler pour justement en exploiter à fond les enjeux, tu vois.
Ouais. On a dit la même chose sur le podcast sur Agone, tu vois.
Enfin, tant mieux.
C'est souvent ce qu'on se dit, mais après, au boulot, quoi.
Ouais, au boulot les auteurs plutôt qu'au boulot les MJ, c'est ça.
Bah, mine de rien, oui, parce que ou alors vous le faites dans votre coin si ça vous fait plaisir, mais si vous le faites, putain, publiez, enfin parlez-nous, enfin
oui, c'est ça. Et à nouveau, s'il y a des MJ qui ont fait tout ce boulot là d'adaptation, enfin ou de développement du jeu, parlez-en, quoi. Enfin,
Fabien, est-ce qu'il y a des scènes que tu as bien aimées, inversement des scènes tu n'avais pas eu le temps de répondre à cette question? Ce sera la dernière question du podcast. Je pense qu'on a globalement fait le tour. Il faudrait après que chacun d'entre nous lise l'univers de Plagues pour en faire des retours peut-être plus détaillés et voir justement quel type de système s'adapterait à...
Bah moi, en tout cas, je vais essayer de lire la campagne. Hein.
D'accord.
Clairement, ça m'a suffisamment intéressé pour que je lui ça digne d'intérêt. Quoi.
D'accord.
Et moi, je pense qu'il y a des tas de gens qui écoutent la cellule Maxime. Et qui savent que ce genre de jeu, quand on a ces critiques-là, ils savent que ça va leur plaire à eux. Ils savent que putain, ça c'est le genre de jeu en fait, ouais, ok, ils font ces critiques là, mais.
Tout à fait. C'est exactement ce que je disais à Fabien pendant la pause mécanique, la technique qu'on vient d'avoir. Je disais, je pense que les gens maintenant savent comment la cellule, les critères en fait de jugement de la cellule, et que du coup, c'est pas dit que parce que Fabien avait l'air de dire ah, ça m'ennuie, j'aimerais qu'on puisse dire tellement plus de ce jeu. Je lui dis, mais t'inquiète pas, c'est pas.
On a reconnu ses qualités, quoi.
Oui,
s'il y a des gens qui savent, ils savent qu'ils ont le temps de... Soit que ce système leur fait plaisir, soit qu'ils savent qu'ils ont le temps de le tordre comme ils veulent et qu'ils ont une idée de campagne, et bah, ils vont s'éclater, et tant mieux. Donc moi je l'achèterai pas parce que j'ai pas ce temps et pas cette envie, mais ça n'engage que moi. Et
Fabien, une petite scène sur laquelle tu voudrais revenir peut-être? Moi je trouve que la scène la plus typique que vous avez racontée là, c'est vraiment la scène des dés de crasse de Jérôme. Parce que je trouve que c'est celle qui met le plus au cœur en termes
je
mécanique.
Que la sorcière était plus intéressante.
Le coup du non, c'est pas ça, mais comment dire, cette scène au moins elle allie la mécanique à.
Ouais, sauf qu'on l'a attendu pour que ça marche.
Et il aurait pas fait un vin naturel, ça aurait été juste une scène de baston de plus qui aurait été plus longue parce qu'il aurait fallu qu'on vienne l'aider, etc.
C'est vrai que si on enlève l'histoire des dés de crasse que j'ai gardé et tout ça, c'était super cool. Mais ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est le vin naturel qui est tombé au bon moment. Et au final, c'est l'anecdote que racontent tous les rôlistes quand ils débutent, ou alors quand ils débutent pas, c'est un peu plus grave pour eux. J'espère qu'ils vont se remettre en question. Mais qu'ils disent, ah, j'en ai fait une partie l'autre jour et c'est trop bien. À la fin, on a fait un une réussite critique au moment où... Ah bon, bon, c'est bien, mais tout le monde le fait, ça. Et...
C'est ce que je disais à la fin de partie, c'est que je trouve qu'on met vachement en avant le 1 et le 20 sur un des 20. Et les gars, c'est 5% de réussite. Enfin, c'est 5% de chance, ça arrive tout le temps, quoi. Faut, c'est, un geste sur, c'est 2 gestes sur 20 qui sont critiques. Un geste sur 10, vu le nombre de jets que vous faites dans une partie, oui, ça va arriver tout le temps. Et faut... Mais j'avoue que moi aussi, je me suis extasié, mais parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait aussi. D'ailleurs, je crois que je l'avais jamais fait, j'avais jamais joué au D20. Et du coup, à mon avis, au bout de 3 parties, ça va m'en secouer une sans faire bouger l'autre.
C'est quand même hyper fun, moi, je trouve, ce petit côté-là. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était juste le plaisir de la réussite critique au bon moment,
okay.
Qui est un plaisir qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux.
D'accord, très bien.
Alors, j'ai l'impression que la scène finale avec le personnage de Jérôme n'était pas du tout dans le canon esthétique de Plagues. Parce que tuer une liche qui est censée être un méga boss ultimissime en un coup, on l'a fait et j'ai joué le jeu aussi parce que c'était rigolo et que ça permettait un peu de mettre le
point. Et le fait qu'il se change en pierre après avoir exécuté.
Alors, qu'il se mette en
pierre. Dans une position agenouillée,
c'est pas
manga.
Proposé par le système, mais c'est vrai que.
C'est largement sous-entendu quand t'as des personnages qui peuvent se transformer
en
pierre.
C'était beau, c'est vrai. Mais c'était une proposition de.
La Reine des Neiges.
Attends, laisse-moi finir. Ça, c'était une proposition.
Dans la Reine des Neiges.
C'est ce
qui se passe à la fin, elle se transforme en glace et dans une position qui est intéressante.
Elle n'a pas décapité de liche avant, quand même.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, dans les trucs où il y a de la pétrification, les personnages sont pétrifiés dans des situations intéressantes et dans des positions intéressantes.
Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a fait parce que ça permettait de ponctuer le scénar, tu vois, de donner une fin avec une... Mais c'est vrai que c'était pas... Je ne sais pas si c'était dans le... C'était plus une fin d'aventure... Ça ressemblait plus à une scène d'aventure, de jeu de rôle, comme t'en as souvent. Alors que justement, j'ai l'impression que si tu veux que dans Plagues, il y a... Je le lis en tout cas comme ayant un côté plus lent, plus mystérieux, plus...
Non.
Toi, t'as l'impression que je projette trop sur
les
jeux.
Ah oui, complètement. Moi, je crois que tu vois... Encore une fois, j'ai discuté... Il se trouve que j'ai discuté avec LG le week-end dernier. Et on en parlait, il me parlait de son travail. Il me disait, moi, je fais du jeu d'aventure, Romaric. Je fais du jeu d'aventure. Mmh. Et là, tu vois, ce que tu me dis, c'est... Ah, mais tu te rends compte, c'était une super scène d'aventure. Mais il y a tellement plus d'enjeux. Non. Moi, je crois que quand le Grum va entendre parler de cette scène-là, en écoutant le podcast parce qu'il l'écoute, il va se dire voilà, c'est ça la scène que c'est ça les scènes que je voulais encourager. Et les trucs contemplatifs et tout ça, ça c'est vous qui rajoutez ça. Éventuellement, ça peut être le cas parce que le Grum fait quand même une sensibilité, il met tout ça dans ses univers et tout ça. Il dit qu'il n'en fait pas exprès parce qu'il est humble, mais moi je sais qu'il en fait exprès. Et donc, du coup, il est content qu'on dise ça. Mais le coup du nain qui se transforme en pierre après Virtue Salus, ça c'est sûr que je pense que c'est le type de scène qu'il souhaitait avec ce jeu. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Maxime, tu fais le clown, là. C'est
absolument
le DK qui fait ça ? C'est le dé dans l'œil
Et donc, finalement, ta scène préférée, Fabien, parce qu'on n'y est toujours pas arrivé.
J'ai pas dit que c'était ma pire scène. Je sais pas vraiment, en fait. J'aurais eu beaucoup de mal à répondre à cette question.
Très bien.
Souvent, parce qu'en général, un truc... Bon, c'est un problème des jeux de rôle traditionnels en général et qui fait que, si tu veux, quand j'y joue toujours avec une espèce de mise en garde personnelle parce que je me sens toujours super responsable quand je suis MJ de la qualité de la partie. Et... Bon, les gens qui me connaissent savent que c'est une position qui ne me réussit pas vraiment, quoi.
D'accord, ouais.
Parce que je suis tout le temps un peu en tension à me dire, merde, est-ce qu'ils vont... Voilà, ce qui me plaît beaucoup dans la démarche des jeux de rôle
non tradis, anarchiques.
Non tradis, voilà, anarchiste, si tu veux, c'est justement de dire ben c'est plutôt à l'auteur de
ou aux participants
en général d'être tu vois,
la responsabilité comme l'autorité est partagée.
Exactement. Voilà.
Très bien. Eh bien, on va peut-être se laisser sur cette conclusion fabuleuse. Un jeu, donc, on l'aura compris en deux parties, hein, le DK, l'univers passionnant. Ça, c'est clair, un jeu d'aventure certain. Voilà, avec toutes les limites que ça comporte ici à la cellule. Mais ce qui compte surtout, c'est de râler moins, de critiquer plus et de jouer plus. À très bientôt, tout le monde.
Bye
salut,
bye.
Salut.